Donc on va essayer de parler de cette médecine traditionnelle chinoise. Alors comme vous le voyez, médecine traditionnelle chinoise déjà, et puis entre parenthèses, ou MTO, parce que MTC c'est ce qu'on connaît partout, mais tout le monde n'accepte pas ce terme. Certaines parlent de médecine traditionnelle orientale, et parce que ça ne fait pas trop plaisir aux gens de Singapour ou de Corée qu'on parle que de médecine chinoise. Mais enfin, c'est un détail. Alors déjà, j'écris, on s'explique. On s'explique parce qu'il est vrai que la médecine occidentale, qui nous soigne à tous, s'explique dans les médias depuis, disons, 50 ans, depuis l'après-guerre, et que tout ce travail sur ces années fait qu'aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde, quand ils vont voir leur praticien, leur médecin, leur thérapeute, allopathe, ils savent à peu près de quoi il en retourne et en gros de quoi on leur parle, ou en tout cas ils pensent le savoir. Quand on va voir par contre un praticien en médecine traditionnelle chinoise, quand on va voir un acupuncteur, il est vrai que son langage est un petit peu ésotérique, un peu fermé, un peu particulier. C'est aussi la langue de bois de la médecine chinoise, elle a aussi son langage. Et il est vrai que le patient ne va pas comprendre si on va parler, par exemple, qu'il a des colères parce qu'il a une montée du feu du foie ou d'un yang du foie du fait d'une compression du qi due à des émotions. C'est un petit peu surprenant. Donc on a un devoir d'explication et c'est un petit peu ce que je fais ce soir. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos cabinets. Le fait d'un petit peu, en plus de notre travail, d'essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux, de faire en sorte aussi d'expliquer le pourquoi et le comment. Donc on va essayer de faire un petit tour de cette vision chinoise de la santé, en parlant aussi bien sûr de cette tradition chinoise. Alors cette vision chinoise, elle commence il y a très longtemps, avec des textes très anciens, et notamment des textes fondateurs de la médecine chinoise, qui sont le Nei Ting, le Soen et le Lin Shu. Vous voyez, ils ont plus de 2000 ans, hein, ces textes, et ils sont encore très très actuels. On en trouve bien sûr des traductions. Alors, tout le problème de la traduction, bien sûr, c'est le problème de la partie de la vérité, hein. C'est vrai que on a un travail à faire quand on rentre dans cette voie de la médecine chinoise, de la médecine orientale, c'est celui aussi de s'imprégner, d'intégrer une autre culture, d'intégrer une pensée et de faire en sorte de la comprendre, d'essayer de la vivre aussi un petit peu, autant que possible, de manière à pouvoir aussi pratiquer et comprendre ce qui est derrière les mots. Alors ça, c'est pour le côté de la Chine, une vieille histoire avec pratiquement 3000 ans de pratique, donc une vieille médecine, une vieille expérimentation par l'usage, et les Chinois sont des gens extrêmement pragmatiques, donc s'ils ont gardé leur médecine, c'est parce qu'elle avait des fonctions qui les intéressaient. Et puis cette médecine est arrivée en Occident. Alors comment elle est arrivée en Occident? Elle est arrivée d'abord par les... Ici, vous voyez, ici, on voit cette publication très ancienne qui date de 1671 et qui est attribuée à des moines jésuites qui étaient les premiers à aller en Chine et qui ont été accueillis sans trop de problèmes parce que les Chinois ne font que peu de cas des religions, donc il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ils ont été assez surpris de cette notion de, comment dirais-je, du fait de s'occuper des gens qui étaient perdus. Hein, c'était très surprenant. Laissez-le, il va mourir, quoi. Là aussi, c'est très pragmatique. Et ben bon, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Bon, les jésuites ont ramené de très nombreux textes, de très très nombreux textes. Aujourd'hui encore, on lit les textes du Père Lard, qui est décédé il y a peu de temps, qui lui aussi faisait partie de la compagnie de Jésus. Et après, on arrive à Louis Berlioz. Alors, c'est le père du compositeur. Peu de gens savent que que le père de Berlioz était médecin et a été, on peut dire, le premier acupuncteur en France. à pratiquer, mais malheureusement, il l'a un peu prêché dans le désert parce qu'il n'a pas été suivi. Et cette période après lui, disons que ça s'est à nouveau éteint. Et puis le redémarrage, ça a été Georges Soulier de Morand. Georges Soulier de Morand qui était consul de France et qui, arrivant à son consulat à Shanghai, est arrivé en pleine épidémie de choléra. Et il a vu mourir dans son consulat des tas de personnel, aussi bien occidentaux que chinois. Et puis il a vu dans un coin un praticien qui s'appelait le docteur Chang, enfin le docteur, c'était le médecin Chang, on n'utilisait pas ces termes en Chine, et il voyait que ces patients, ben, eux, survivaient. Donc il s'est intéressé, il s'est rapproché de lui, il a appris la médecine chinoise, et à cette époque, c'était une époque encore où on n'avait pas Internet, où on n'avait pratiquement pas le téléphone, et donc un consul de France en Chine avait beaucoup de temps libre, et donc c'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à la poésie, à la philosophie chinoise, et notamment à la médecine, qui l'a ramené en France. Et on peut dire que c'est à partir de la France que la médecine chinoise, et notamment l'acupuncture à cette époque, s'est propagée dans tout le monde occidental. Et on reste aujourd'hui, quand on a des contacts avec d'autres pays européens, on reste comme le pays de cette conservateur, disons, de cette tradition, de cette grande tradition chinoise, qui reste toujours un petit peu cette vision que le monde européen de la médecine chinoise a de la France. Alors, on va faire un petit tour rapidement, on va parler un petit peu justement de ce Tao, le Tai Yi, le suprême un, quelle est la vision chinoise un petit peu du monde pour arriver jusqu'à l'homme, du Tai Yi, du Tao, ensuite pour arriver au Yin Yang, et puis un des livres fondamentaux qui est le Yi Qing et qui est loin d'être seulement un livre d'oracle, très très loin, ça c'est la superficie des choses. C'est un ouvrage à partir duquel on peut, par des décodages assez complexes, démontrer l'entièreté un petit peu du système de fonctionnement des énergies au niveau de l'être humain. Alors, ce Yin Yang, déjà, on a cette notion de Tai Yi, le suprême un. Alors, ce suprême un, c'est, si on veut rapprocher, faire des parallèles avec notre civilisation judéo-chrétienne, c'est la divinité dans ce qu'on ne peut même pas imaginer, même pas en parler. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, donc on laisse de côté. C'est quelque chose qui est largement au-delà de notre esprit. Du Tai Yi, on va arriver, après au Tao, pour arriver à générer le Yin et le Yang. Alors, on voit l'écriture du Yin et du Yang symbolique. C'est une des écritures comme ça, on va en parler. C'est cette notion de Yin avec cette notion de vacuité, qui est une notion importante au niveau pour le monde asiatique. Vous voyez là le Tao Te Ching, vous savez, ce fameux livre qui a été écrit par Lao Tzu. Et on voit un petit peu que cette vacuité, ce vide central, permet que les choses aient une utilité, aient un usage, puissent s'incarner et, comment dirais-je, pouvoir arriver à fonctionner. La vacuité, c'est une notion importante. La vacuité, par exemple, je me souviens d'un de mes amis qui est premier violon à l'Opéra de Monaco et qui me disait que pour lui, par exemple, le moment le plus important d'un concert, c'était quand il terminait le concert. Et ce qui était très très important pour lui, c'est que les gens n'applaudissent pas tout de suite. Vous savez, ce moment de silence, ce moment de vide, qui est d'une importance vraiment primordiale, qui génère la vacuité. C'est ce que je note comme étant cet entre-deux, hein, cet entre-deux, ce vide entre les choses qui permet l'échange. On parle toujours, par exemple aussi, on donne souvent l'exemple d'un père et son fils qui ont des fois des difficultés à communiquer, alors que la communication est plus facile entre le grand-père et le petit-fils. Parce qu'il y a cette notion, justement, de vacuité, cette notion d'espace entre. J'ai noté l'arbre de la connaissance et le serpent, parce qu'on retrouve cette notion aussi dans notre civilisation judéo-chrétienne. Et quand on regarde des commentaires talmudiques, on peut attribuer aussi la faute comme le fait d'avoir comblé la vacuité, les deux vacuités étant l'arbre, qui est l'arbre pulmonaire, et le serpent, qui est notre tube digestif. C'est-à-dire qu'une fois matérialisé avec l'arbre et le serpent, et ben ces deux vacuités, ces deux espaces qui doivent rester libres pour que la vie puisse être, ont été, comment dirais-je, matérialisés et donc ça a été aussi l'objet de la force, de la faute. La vacuité, on la retrouve aussi, et ça on en reparlera après, au niveau de la puncture elle-même, du moment où l'acupuncteur met une aiguille. Là aussi, c'est un état particulier où il doit être posé sur la terre lui-même, et que ce, parce que on en parlera après, mais le point d'acupuncture est considéré par la vision chinoise comme un puits. Donc quelque chose de creux, une vacuité, là encore. C'est pour ça que normalement aussi la puncture n'est pas douloureuse, parce qu'on rentre dans du rien, mais qui est différent de ce qu'on peut penser, hein, c'est pas le rien l'inexistant. Et donc, il y a ce passage, là aussi, par la vacuité. Alors, là aussi, c'est la notion du rien par rapport à la vacuité. Le rien, on l'a vu tout à l'heure, ce centre, on le retrouve aussi dans la tradition au niveau du bouddhisme, où on remet le sage au centre du moyeu vide. Et c'est grâce à sa présence au centre de ce moyeu vide que les énergies se génèrent. Et c'est la même position qu'occupait l'empereur en Chine, c'est-à-dire au centre du monde, dans ce vide central. Et donc ce n'est pas ne rien faire, mais c'est faire rien. Qui peut entrer. C'est très très différent. On va passer. Donc on a vu ce Tai Yi, on a vu, il y a cette notion de Tao, donc qui arrive juste après le Tai Yi. Alors ça, c'est, si on veut se rapprocher de nos visions un peu Père Noël, hein, c'est le qu'on a de la vision de la divinité, hein, le vieux monsieur avec une grande barbe. Ben là, le Tao, c'est un petit peu, c'est la divinité qui commence à descendre, qui commence à une émanence du Tai Yi, et qui, elle, va générer justement le Yin et le Yang, les deux énergies primordiales. Alors, comment on écrit ce Yin et ce Yang? Alors, la naissance de ce monogramme, une des théories de cette naissance de ce trait Yin discontinu et du trait Yang continu, c'est la notion du gnomon, ce bâton simplement planté dans la terre, et qui va, ça tombe bien parce que cette image que j'ai, c'est le 20 février, donc on y est pratiquement, on a presque des heures justes, donner son nombre à 7 heures du matin d'un côté, et puis dans le chemin qu'il va parcourir sur le ciel, donner l'ombre du soir. Et ce qui fait qu'on va arriver à, avec ces deux ombres, avec les deux traits Yin, et puis le bâton, le gnomon, lui, vertical, tout le temps face au soleil, va donner ce trait Yang. Voilà, c'est une des visions de cette organisme, de cette écriture, disons, de cette manière d'écrire. On va passer sur cette... Bon, vous voyez, l'homme, une vision chinoise encore au niveau du Tao Te Ching, l'homme sort dans la vie et entre dans la mort, alors que nous, on a un petit peu tendance à inverser, c'est-à-dire que on n'entre pas dans la mort, mais on sort de la vie. Hein, et c'est plutôt une vision, là encore, où on voit que la vie fait partie d'un tout. Il y a l'avant, l'après, et tout ça, ça tourne. Lao Tzu écrivait... Là encore, c'est assez ancien, vous voyez, on est à 2500, 2600 années avant aujourd'hui. Le 1 produit le 2, qui produit le 3, qui produit les 10 000 êtres. Alors, le 1 produit le 2, qui produit le 3, on l'a vu, puisqu'on a le Tao, et les deux, et le Yin et le Yang. Donc, on se retrouve avec ce 1, et puis ce triptyque, on va dire, cette vie à 3 du Tao avec le Yin et le Yang, hein, tout ça est indissociable, et qui va produire les 10 000 êtres. Alors, les 10 000 êtres, ça veut dire, tout simplement, qui va produire l'humanité tout entière. Alors là, on le voit au niveau des polarisations successives. On va partir de ce qu'on appelle des monogrammes, le Yin et le Yang, un seul trait, qui vont eux-mêmes se polariser pour arriver à des bigrammes, donc avec deux traits. Donc on a quatre composants. Là, on le voit. Alors là, on voit des lettres TGCA. C'est assez curieux, ça, parce que ça, par contre, on ne connaît pas l'origine, on n'a pas retrouvé. Parce qu'on parle d'énergie transcendante, d'énergie génétique, d'énergie comburante et d'énergie alimentaire. Alors, bien sûr, transcendant, c'est tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité. Génétique, c'est tout ce qui est transmis par les parents, c'est bien compréhensible. Comburante, c'est l'air qu'on respire et tout ce que contient l'air. Et puis alimentaire, c'est tous les aliments, aussi bien, là aussi d'ailleurs, physiques que psychiques, qui vont faire ça. Et de manière surprenante, ça correspond un petit peu aussi à ces quatre bases, thymine, guanine, cytosine et adénine. Et on va voir qu'on va y arriver justement à ce rapprochement. Après donc une nouvelle polarisation, on arrive donc de 4 à 8 composants avec des trigrammes. On va en reparler. Donc au fur et à mesure, si on descend, on arrive jusqu'à la sixième polarisation avec 64 hexagrammes qui vont former les 64 hexagrammes du Ikki auxquels on va arriver. Mais on va s'arrêter juste un tout petit instant sur ces 8 trigrammes, parce que ces 8 trigrammes, leur imagination, leur dessin remonte à très très loin. On parle de l'empereur Fuyi. Alors c'est un empereur qui est quasi mythique. Ça fait partie du temps préhistorique de la Chine. Oui, on remonte à moins 3000, donc ça fait entre 4000, 4500, 5000 ans avant aujourd'hui. Et donc on le voit là en train d'écrire ces 8 trigrammes. Alors Fuyi est souvent représenté, vous voyez, avec des sortes de petites cornes sur la tête, hein, donc mi-humain, mi-animal, ou plutôt les cornes peut-être de la sainteté. Vous savez, on retrouve ces petites cornes aussi sur certains tableaux de la Renaissance représentant Moïse, etc., avec des liens comme ça avec ce qui est au-dessus. Fuyi avait une femme qui s'appelait Nuwa, donc vous voyez la représentation des deux. On voit souvent cette représentation où donc on voit ce côté humain et terminant par une sorte de queue de poisson ou de serpent, enfin etc., mi-humain, mi-animal, et avec là aussi tout de suite la représentation du yin et du yang, puisque Fuyi que vous voyez à droite, c'est ça. Fuyi que vous voyez à droite tient en sa main une équerre et Nuwa tient un compas. Alors l'équerre qui est un symbole passif qui correspond à la terre et qui est donc un symbole féminin qui est tenu par Fuyi masculin, donc le yin qui est aussi dans le yang, et inversement le compas symbole actif masculin qui se retrouve dans la main de Nuwa qui elle représente le yin. Donc on retrouve là aussi cette notion du yin et du yang déjà entremêlée. Alors le Hutu de l'empereur Fuyi, c'est ces 8 trigrammes, donc qui vont du plus in. Alors ça se lit toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et je cherche, voilà ici. Vous voyez, ça c'est un trait in, donc c'est in de in de in de in de yang, etc. Et on va continuer. Donc ça se rapproche complètement, bien sûr, du langage binaire d'aujourd'hui, avec le 0 et le 1, puisqu'on a deux. Et donc voilà, là je vous ai mis le langage binaire. On voit ici le premier chiffre, le 0, 0, 0, 0, 1, 10, 11, et après on passe en phase 100, 101, 110 et 111, hein, qui fait la progression du langage binaire, qui d'ailleurs. L'idée du langage binaire est venue de ces idéogrammes chinois, ça c'est clair, clairement exprimé. Cette organisation de ces 8 trigrammes, le retour de Fuyi, vous le voyez, on le retrouve ici, en haut, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur, parce qu'après on a une autre organisation qui est celle du ciel postérieur, en bas, qui tourne en sens inverse d'ailleurs. Et on voit ici d'ailleurs ce fameux Tao qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Là encore, c'est pas pour rien, c'est le sens de la génération des choses. Même un fœtus, pendant sa gestation, a aussi ce mouvement de rotation qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est pas pour rien que le temps tourne aussi dans ce sens-là et pas dans l'autre. C'est pas pour rien que Adolf Hitler a choisi une swastika qui tourne en sens inverse du sens des aiguilles d'une montre, parce qu'elle existe aussi dans le sens qui tourne, mais lui était dans une vision de déstructuration. Et donc on retrouve ce ciel antérieur qui est celui duquel on est sorti, puisque c'est celui d'avant la naissance. C'est celui de la génération des choses. Et puis nous vivons dans le ciel postérieur, puisque nous savons tous que nous sommes mortels et que à partir du moment où on est, eh bien, on va vers cette déstructuration. À savoir d'ailleurs que quand on voit ce Lo-Shu ici, qui est celui de la déstructuration, il y avait à l'époque de l'Empire en Chine aussi toute une théorie basée sur le Lo-Shu, c'est-à-dire sur la déstructuration. Alors que la médecine chinoise est basée sur le Ho-Tu, c'est-à-dire de manière à essayer de construire, de restaurer la santé, il y avait aussi des lois sur le Ho-Shu, tout simplement pour éliminer des gens qui étaient gênants au niveau de la cour. On avait aussi donc le moyen d'essayer de travailler en douce, on va dire. Maintenant, bien sûr, tout ça n'existe plus. Donc cette progression de cet alphabet énergétique avec cette combinaison qui va donc qui part du Tao, du Yin-Yang, et de polarisation en polarisation, on arrive à nos 64 hexagrammes, qui sont des également des générateurs, comme je vous le disais, ça serait beaucoup trop long, bien sûr, de pouvoir démontrer ça, mais on voit que, au niveau, si vous voyez sur ce, alors, sur ce schéma, on voit ici le P qui représente le poumon, etc., le gros intestin, le foie, l'estomac, etc., donc avec des générations des organes, des viscères, des méridiens, etc., il y a toute une démonstration, avec ce qui est amusant, d'ailleurs, trois trous noirs, qui sont dans le hiking, qui sont dans ce décodage et qui correspondent exactement aux trois impossibilités du code génétique. TA, TGA et TAC, si je me souviens bien, c'est ça ici, TGA, TAG et TAA. Allez, voilà. Hein. Donc on retrouve aussi ces trois mêmes impossibilités. On va passer là-dessus, sur ce hiking. Alors, donc là, la Chine, alors vous allez me dire, c'est à l'envers. Ah zut, excusez-moi. On la remet à l'endroit. Donc on va prendre juste la Chine. Ouais, c'est un truc de conférence. On va prendre juste la Chine et ça c'est quelque chose qui nous rassure parce que on a une carte comme on a l'habitude de les voir. Mais sachez que la tradition chinoise, elle est orientée au sud. C'est-à-dire que pour les Chinois, la carte, elle devrait être comme ça. Hein. Donc, bien sûr, de nos jours, maintenant, tout le monde oriente les cartes au nord. Mais ce n'est pas logique d'être orienté au nord. Hein. C'est une vision très occidentale. Les Chinois l'utilisent juste pour une chose, on va en parler après. Mais normalement, l'orientation se passe au sud. Hein. Quand vous êtes au sud, on revient avec notre fameux gnomon, et bien, vous avez devant vous le soleil qui se lève, le soleil qui arrive au zénith et le soleil qui se couche. Vous n'allez pas vous tourner, vous êtes face au nord et vous dites derrière moi, le soleil se lève, là il doit être au zénith et puis là il est au... Non, c'est pas logique. Donc la tradition et les traditions en général sont d'ailleurs orientées vers le sud. Et j'ai marqué suivant le Tao parce qu'on va voir d'ailleurs cette notion de Tao. Le voilà. Alors ça, le Tao, c'est l'idéogramme qui représente le Tao. Alors vous avez à droite l'idéogramme moderne, et vous voyez que à gauche c'est des idéogrammes faits par des calligraphes qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant. Et très intéressant, surtout quand on voit sa signification, on voit que dans le Tao, on retrouve une tête avec les cheveux dénoués, hein, quelqu'un qui a lâché ses cheveux. Alors on dit comme celle d'un magicien. Alors quand on met le mot magicien, il faut lire aussi le mot thaumaturge, c'est-à-dire c'est celui aussi qui fait des miracles comme un magicien, c'est-à-dire c'est aussi le médecin. Parce que c'est le thaumaturge, c'est aussi le thérapeute, parce que c'est lui aussi ben, quelqu'un qui allait, on le croyait mort, il est toujours vivant. Donc c'est lui qui va laisser trois empreintes de pas. Alors on les voit très bien les trois empreintes ici, mais par contre elles ne sont pas du tout dynamiques, hein, alors qu'ici on voit très bien cette marche qui danse de ces trois pas. Et c'est le pied gauche qui se lève en premier et le pied droit le rejoint. Et il y a ces trois pas comme ça successifs. Et alors pourquoi le pied gauche? Parce que tout simplement, là encore, c'est justement celui qui est du côté de l'Est, celui où le soleil se lève. Et donc, c'est la marche, ça représente la marche du soleil dans la journée, avec on commence par le pied gauche, celui qui est à l'Est, hein, comme le soleil. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs orienté vers le sud, au niveau de la tradition. Je marque le souverain fait face au sud parce que c'est dans la tradition aussi chinoise, le souverain gouverne au sud. Par exemple, aujourd'hui, même toujours, après les lois de Confucius, parce que vous savez qu'il y a ces deux grandes écoles, hein, le taoïsme et le confucianisme, le taoïsme étant extrêmement proche de la nature, très ouvert à toutes sortes d'expériences, le confucianisme ayant normalisé et normé le monde chinois, et notamment avec tout ce qu'on appellerait, nous, le côté protocolaire. Et dans le protocole de table, le maître de maison est toujours assis face au sud, hein, et qui normalement face à la porte d'entrée, puisque la porte d'entrée d'une maison doit se situer au nord. Voilà. Donc voilà, on le voit c'est dans la légende de la garde, ça, où on voit que dans la voie du Tao, tourné vers l'est, le disciple reçoit, au sud, le maître gouverne, au centre du sanctuaire de la connaissance, le maître tourné vers l'ouest donne son enseignement à six disciples encore à l'extérieur de l'enceinte sacrée, car c'est à l'ouest que le maître enseigne, cependant, c'est au nord que disciples il rencontre. Donc voilà une organisation de l'espace, qui est d'ailleurs souvent une organisation de nos cabinets, parce que, à tant faire, pourquoi ne pas organiser aussi le lieu de l'écoute, où on reçoit les informations du patient, le lieu où on lui donne des informations, etc. Là aussi, en fonction de ses orients. Alors, le yin yang dont on a parlé tout à l'heure, qui vient juste après le Tao, là aussi, voilà deux beaux idéogrammes. Alors, ces idéogrammes, on voit sur la gauche, il y a ce qu'on appelle, les deux ont le même radical. Alors, ce radical, il représente une falaise très abrupte, sur laquelle sont plantés trois arbres. Là encore, ce 3 qui est en, comment dirais-je, pour rappeler cette notion du 3, du yin, du yang, avec le Tao. Et puis, on voit pour le côté yin, on voit donc cette notion de toit avec quelque chose qui se passe en dessous. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, il y a des nuages qui roulent dans le ciel. Ces nuages proviennent de l'énergie de la Terre, du sol, et ils montent vers le ciel. Ce sont des vapeurs qui montent vers le ciel. Et donc le fait de dire que ces nuages roulent, ces nuages se différencient, c'est tout simplement parce que c'est cette notion justement de l'intemporalité des choses, pas d'intemporalité, la labilité, le fait que les choses sont inconstantes, l'énergie est en mouvement en permanence. Et du côté du yang, on voit un soleil au-dessus de l'horizon, et puis en dessous, bon, des banderoles agitées par le vent, donc il y a ce côté moteur, et puis il y a le côté du soleil, le côté lumineux, puisque le soleil, on l'appelle le taiyang, le grand yang, hein, qui va être le côté lumineux du yang, qu'on rattache souvent, hein, au niveau de ces deux principes. Vous connaissez donc cette dualité, cette alternance qu'on retrouve dans les principes yin yang, hein. Vous savez qu'on y met l'homme, la femme, le jour, la nuit... Est-ce que je sais, enfin, l'inspire, l'expire, enfin, tout étant yin yang, tout peut être qualifié de yin et de yang, tout sur cette terre. Et le yin et le yang, moi je dis toujours, ça n'existe pas en tant que tel, parce que c'est toujours relatif. C'est-à-dire que si on prend la profondeur étant qualifiée de yin, la superficie qualifiée de yang, si on considère cet écran, il est la profondeur, il est yin. Donc je suis yang par rapport à cet écran. Mais en réalité, je suis yin par rapport à cet ordinateur, etc. Vous voyez, donc tout ça va se modifier. Quand on dit l'homme est yin, la femme est yang, l'homme est yang, la femme est yin, on va trouver bien sûr des hommes beaucoup plus yin que certaines femmes qui vont être beaucoup plus yang. Donc tout ça est complètement relatif. Donc, c'est cette notion, on le revoit d'ailleurs dans ce signe qui représente, ou dans le Tao, on voit cette génération du yin-yang, et cette notion d'échange et de transformation. Vous voyez toujours qu'il y a toujours ce point noir dans la case blanche, et réciproquement, qui veut dire que tout est dans tout, et que tout peut se transformer. C'est pour ça que, pour les Chinois, ne leur parlez jamais d'essayer de trouver l'équilibre dans la vie. L'équilibre dans la vie, pour un Chinois, ça ne veut rien dire. Enfin, l'équilibre, oui, ça existe. C'est-à-dire, c'est quand le ciel et la terre sont séparés, c'est le cimetière. Là, tout est en équilibre, personne ne bouge, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de conflit entre voisins, on est tranquille. Pour les Chinois, la recherche absolue, c'est celle de l'harmonie. Et on le sait tous, on peut être dans une très grande harmonie, dans un très grand déséquilibre. Qui ne connaît pas des handicapés, des personnes handicapées en fauteuil, des gens extrêmement malades et qui sont dans une joie absolue, dans un équilibre total, dans une harmonie totale, voyez les mots, dans une harmonie totale et qui donnent des leçons à des gens qui semblent être très équilibrés et parfois complètement dans la disharmonie. Donc on peut retrouver l'harmonie dans le déséquilibre absolu, hein, en sachant que justement le déséquilibre, c'est aussi la clé de la vie. On verra, quand on verra la structuration des méridiens, vous verrez que tous les méridiens yang sont dans le dos, tous les méridiens yin sont sur l'abdomen, et puis curieusement, il y a un seul méridien, c'est celui de l'estomac, qui vient sur l'abdomen, devant, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, celui-là au milieu? Eh bien, c'est lui qui vient générer le déséquilibre, c'est lui qui vient générer la question, vous savez, le ma, le quoi, le pourquoi. Mais pourquoi lui, il n'est pas comme moi? Pourquoi mange-t-il pas comme moi? Pourquoi n'a-t-il pas la même langue que moi? Etc. C'est l'étranger, celui qui nous surprend, et qui fait qu'il va générer le déséquilibre. Et générant le déséquilibre, il va générer la mise en mouvement des énergies. C'est-à-dire que c'est en vérité grâce à lui, et grâce à cette question, que notre société vit. Et donc notre société interne vit grâce à ce déséquilibre de ce méridien de l'estomac qui n'est pas à sa place. Autre principe important de la vision de la médecine chinoise, c'est le principe du ciel et de la terre. Alors, le ciel, bien sûr, est yang, la terre représente le yin, et puis il y a ce plan médian qui est celui de notre vie, de l'incarnation du Tao qui est en nous, et qui est le plan de l'homme. On peut le représenter bien sûr à tous les niveaux, au niveau humain. Donc on peut, vous voyez ici, on peut séparer l'homme lui aussi entre ciel, terre et homme. On peut le représenter, alors c'est amusant parce que quand j'ai trouvé cette photo, j'ai réalisé qu'après, que Charlot avait un chapeau rond, comme le rond qui représente le ciel, et avait un polygone de sustentation bien carré, puisque la Terre est symbolisée par le carré, et on le retrouve donc aussi bien au niveau à tous les niveaux du corps, on peut trouver là aussi un ciel, une terre et le plan de la manifestation, avec ces trois niveaux. Autre élément important qu'il faut mettre en place, c'est la notion de chaîne. Cette notion de chaîne, avec ces deux idéogrammes, le chêne, cet idéogramme va nous dire ce par quoi le ciel instruit aux hommes, c'est-à-dire tous les éléments qui sont à l'extérieur de nous, que ce soit les étoiles, les planètes, tout ce qui est autour de nous, qui va nous enseigner et nous permettre de grandir. Donc c'est ce qu'on appelle la vibration primordiale. On le voit dans le Soen, ce fameux livre de médecine chinoise dont on parlait au début. Quand le ciel produit les 10 000 êtres, chaque être est pourvu d'un principe maître, c'est ce que l'on appelle le chêne. Voilà. Donc le chêne, après, ça c'est ce qu'on... de l'ordre de l'acquis, et il va bien sûr se développer en fonction des expériences de chacun, du vécu de chacun, et donc bien sûr, il est de l'ordre du ciel. Le Jing, c'est l'essence, la quintessence, c'est-à-dire, on voit ici, sur la gauche de l'idéogramme, une graine de céréales, et puis cette graine de céréales, elle est qualifiée par le côté droit comme étant en pleine vitalité, dans toute sa vigueur. Donc le Jing, justement, c'est ce qu'on va... toutes les énergies, disons, qu'on va récupérer, toutes les vitalités qu'on va récupérer de nos aliments, de l'air qu'on respire, etc., de tout ce qu'on va pouvoir boire. Donc c'est ce qu'on représente, justement, cette notion d'essence de la vie, bien sûr avec le côté transmission par les parents, hein, puisqu'on dit que quand deux jing s'empoignent, eh ben, un être est conçu, là encore, c'est deux énergies. Et donc ça va se... Le jing, c'est la forme, c'est ce qui va donner la forme de l'individu. Et bien sûr, comme on est dans l'incarnation complète, on est dans la notion de la terre. Donc le chêne de l'ordre du ciel et le jing de l'ordre de la terre. Et puis entre les deux, eh bien, on a le qi, hein, ce fameux qi qu'on traduit, nous, occidentaux, par énergie et qui, en réalité, est la traduction qui serait bien meilleure, ce sont les souffles. Alors, l'idéogramme est très parlant puisque, au début, primitivement, l'idéogramme, c'est cette partie de droite uniquement, où on voyait des vapeurs qui montent de la Terre et qui vont former des nuages. Vous voyez, c'est ce côté un peu immatériel, mais qui circule. Cette notion de circulation entre la Terre et le ciel, et réciproquement. Hein, puisque ces vapeurs, on a vu que du yin vont monter des vapeurs, et puis le ciel, yang, lui, va rendre tout ça avec la pluie. Et puis c'est à rajouter après avec le temps cet autre idéogramme qui est simplement celle du grain de céréales cuit et qui est encore fumant. Donc encore la même idée, puis finalement les deux sont restés associés. Donc ce qi, on en a parlé, qui est cette relation, hein, cette mise en relation du ciel et de la terre et qui se retrouve donc être celui de notre plan, le plan de l'homme. Et donc on dit que ce qi a des fonctions principales, transformer, c'est-à-dire on a vu transformer par exemple les aliments ou l'air qu'on respire pour que ça puisse être intégré, mobiliser, mettre en mouvement le qi, c'est un moteur qui va permettre la mise en mouvement par exemple des liquides organiques. On parle de liquide organique quand on parle du sang, de la lymphe, etc., qui va permettre de réchauffer. Hein, le corps est vu comme un système avec un réchaud central. Hein, de protéger, puisqu'il y a des énergies qui vont nous agresser de l'extérieur, puisqu'on est, nous aussi, on a une surface, et donc il faut se défendre vis-à-vis des agressions. Et puis de retenir pour qu'on ne puisse pas partir dans tous les sens. Hein. Par exemple, quand on a un bleu, ben, on en a un problème, on n'arrive pas à retenir. Hein. Il y a des choses qui partent, ça peut être aussi au niveau de la parole, hein, le fait de trop parler, comme je fais maintenant. Là aussi, donc, je lutte contre mon chi, hein, qui devrait me retenir. Alors, on voit cette notion de tai yi, de tai ho, de Tao, qu'on arrive au yin et au yang, ensuite on arrive à cette notion de circulation de terre, de ciel, tout cela, on va le retrouver dans l'homme, mais c'est la particularité de la tradition chinoise, c'est de cette continuité permanente qu'il y a entre ce que j'ai appelé le corps cosmique, le corps social et le corps physique, c'est-à-dire ce qui est dans le ciel, la lune, le soleil, les planètes, etc., les climats. Tout ça va se retrouver avec un soleil centre de l'univers, par exemple, avec des planètes qui tournent autour. Ça va se retrouver dans le corps social, c'est-à-dire que sur la planète Terre, il y a un pays qui est le pays du milieu, c'est la Chine, pour les Chinois bien sûr, et chacun voit midi à sa porte. Dans ce pays du milieu, eh bien, il y a le centre qui est le palais impérial, et au centre du palais impérial, il y a l'empereur, qui justement est lui-même le soleil de tout l'Empire. Donc qui représente exactement la même position que la position cosmique. Et dans l'individu, on a exactement cette même organisation où on va avoir des rôles symboliques, là aussi, des organes. Et par exemple, le cœur va se retrouver comme empereur, avec le poumon comme étant son premier ministre, c'est sa proximité la plus proche, hein, donc, etc. Et donc il y a une grande différence avec notre vision occidentale, où on est tous marqués par cette faute de départ, hein, où donc on était en proximité avec la divinité, et puis tout d'un coup, la faute, rupture, cassure, dehors du paradis, et donc il y a cette fracture qui fait que, on le voit d'ailleurs dans ce tableau ici en bas, qui fait qu'on a aussi le développement de nombreuses culpabilités, qui sont souvent totalement ignorés par le monde chinois, qui semble, sur certains sujets, beaucoup plus décontracté que nous, et qui a beaucoup surpris les premiers jésuites qui sont arrivés, justement. Cette différence, on la retrouve dans cette notion de création qu'on a chez nous, alors que dans la vision, donc avec une notion de séparation, je sépare, alors que dans la vision chinoise, c'est une émanation, c'est-à-dire que du Tai-Yi va émaner le Tao, du Tao va émaner le Yin-Yang, etc., et les 10 000 êtres. Il y a une continuité, il n'y a pas de fracture. Et ça entraîne pour nous, le monde occidental et le monde asiatique, deux visions de la science, deux visions de l'approche du corps, deux visions du monde qui sont très, très, très différentes, puisque nous, le fait de séparer, c'est cette vision analytique, où on va examiner, ausculter, par petits morceaux, etc., pour essayer de trouver la solution, et on va trouver des solutions extraordinaires. Et puis d'un autre côté, on a une vision analogique. Et ça, c'est toute la vision du monde asiatique, c'est cette vision de l'analogie. C'est comme, donc il doit y avoir un lien, et on fait des liens, et on crée des liens, et les liens sont toujours permanents. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que par deux chemins différents, on arrive très très souvent à des conclusions qui sont identiques. Ça c'est très intéressant et très important parce que finalement on observe tous le même sujet, hein, mais simplement il y en a un qui mange du blé, l'autre qui mange du riz, l'autre qui mange du maïs, donc on va expliquer les choses, exprimer les choses de manière différente, mais on voit tous le même objet qu'on doit analyser. Ici, alors, pour vous donner un peu un esprit chinois, je vais vous le résumer, hein, on n'a pas besoin de lire tout ça, mais c'est un texte intéressant, ça fait partie du Chuang-tzu. Chuang-tzu, c'est un écrivain où il y a plusieurs écrivains enfin, qui sont antérieurs à Lao-tzu et qui décrit Confucius qui arrive auprès des chutes de Luliang, et qui voit des chutes qui sont réputées pour être complètement mortelles pour toute personne qui voudrait s'y baigner. On dit ni crocodile, ni même la tortue ne pouvait s'y baigner. Et puis il voit quelqu'un qui rentre dans l'eau, il dit c'est un malheureux qui veut se suicider. Et puis, curieusement, il le voit nager, il le voit ressortir de l'eau, et il sort sur la berge, et il marche les cheveux dénoués, si je crois bien que c'est écrit quelque chose. Vous vous rappelez l'idéogramme du Tao, où on voit ses cheveux dénoués, c'est-à-dire que là, ce texte nous dit, on est là en présence du taoïsme et du confucianisme, c'est-à-dire que Confucius, lui, il n'arrive pas comme ça, les cheveux dénoués, lui, Confucius, il arrive avec des gardes, avec des banderoles, avec des chaises à porteurs, enfin, c'est tout le confucianisme, hein, qui arrive au bord du lac, pour aller voir le lac. Et donc, on voit cette notion du donné, Le Confucius lui pose la question, mais comment fais-tu, quoi, hein? Quel est ton secret? Il dit, j'ai pas de secret. Ben moi, j'ai, vous voyez, à la fin, il lui dit, je suis né dans ces collines, je me suis senti chez moi, voilà le donné. C'est le point de départ. J'ai grandi dans l'eau, je me suis peu à peu senti à l'aise, voilà le naturel, c'est le donné. Le naturel, ben je me suis construit avec. Donc il y a la notion de d'inné, la notion d'acquis, je me suis. Et puis, j'ignore pourquoi j'agis comme je le fais, voilà la nécessité. Donc il y a cette notion aussi d'adaptabilité permanente des énergies qui vont se mobiliser. Alors, la vision, on a vu cette vision cosmique et on a vu cette vision du corps social, le corps, le nôtre, et on peut le voir également aussi comme une enceinte fortifiée. Alors une enceinte fortifiée. Avec au centre la ville, avec les choses importantes, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire on va voir les notables, on va voir le boulanger, le charcutier, enfin tout ce qui va être de l'ordre de l'utilisation de l'État. Et ça, c'est exactement ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les organes, hein, c'est-à-dire qu'on considère symboliquement toujours, bien sûr, que le cœur, le foie, la rate, le rein, le poumon, etc., sont des trésors, des organes, et qu'ils sont très protégés. Autour, il y a les champs cultivés, là où on va faire la chasse, là où on va pêcher, etc. Donc c'est tout le territoire qui est de l'ordre des viscères, les viscères, vésicules biliaires, l'estomac, etc., qui sont tous creux, qui sont des lieux de passage, des lieux de stockage, des lieux de transformation. Donc c'est ce qu'on appelle les ateliers. Et puis, tout autour, eh ben, un système de frontières avec des défenses qui sont représentées par nos méridiens, qui sont à la surface du corps, nos méridiens qui vont nous défendre d'agressions externes qui sont en général celles des nomades, puisque je vous rappelle que la Chine, c'est quelque chose de très important, est une civilisation sédentaire. Alors, sédentaire pourquoi? Parce que eh ben, c'est là que la Chine se retourne vers le nord, c'est la notion de l'étoile polaire. C'est-à-dire que pour arriver à construire l'espace de notre sol, il faut une référence spatiale. Il faut un point fixe sur lequel on puisse s'accrocher de manière à construire l'espace. Et vous verrez que toutes les civilisations, de la pierre, de la construction, du monument, toutes les civilisations sédentaires se sont construites dans l'hémisphère nord, où on peut voir l'étoile polaire. Dans l'hémisphère sud, vous savez, vous voyez que là, on a la croix du sud qui est une zone. Hein, et vous voyez, d'ailleurs là, on voit très bien que là, ici, elle tourne. Vous voyez, elle est très loin du centre quand même, hein, la croix du sud. Donc elle est une zone. Donc on n'est plus de l'ordre de la civilisation, comment dirais-je, sédentaire. On est de l'ordre de la civilisation nomade. Et on n'est plus donc, on est dans une tradition qui va être celle de l'oralité, d'une tradition du chant, de la danse, etc., de la transmission orale. Et on n'est plus dans la construction des civilisations telles qu'on les connaît dans l'hémisphère nord. Si vous regardez l'hémisphère, vous verrez que toutes les civilisations sont dans l'hémisphère nord. Alors j'ai juste mis ici celle des Incas qui se retrouve dans l'hémisphère sud, mais qui en réalité est très récente puisqu'elle date du XIIe siècle. Et qu'il y a soit ce sont des gens qui sont venus du nord des Mayas ou des Aztèques, soit certains disent que ce sont des gens qui sont venus justement d'Asie. Mais donc c'est une civilisation très récente. On va passer là-dessus. Ah oui, là j'ai rajouté ça parce que les Chinois ont toujours traditionnellement une grande peur du Sud, et ils disent traditionnellement que le Sud n'est fait que pour construire des bagnes. Et c'est amusant parce que les bagnes sont justement dans le Sud, comme quoi les choses se rejoignent. On va revenir et à nos, à nos, à notre structure où on va voir ces monogrammes et on va redescendre donc au niveau des bigrammes qui vont nous générer ce qu'on appelle les foyers réchauffeurs, on va en parler, et ensuite les 8 trigrammes qui vont nous générer d'autres systèmes de circulation d'énergie. On va en parler tout de suite. Donc tout ça pour nous donner ce schéma énergétique qui est un petit peu la structure de l'être humain tel que le voient les Chinois. C'est une des visions où on voit un système à 3 étages. Un premier étage en bas qui est double, mais on va le laisser simple. Un deuxième étage à 8 composants et puis un deuxième étage qui, lui, a 2 structures différentes qu'on va voir rapidement. Le premier étage, d'abord, c'est ce qu'on appelle les 3 réchauffeurs ou 3 foyers. C'est tout simplement, on va simplifier bien sûr les choses, c'est la réception des énergies, donc que ce soit de ce que je vais manger, de ce que je vais respirer, etc., où je vais commencer à les préchauffer, à commencer à les transformer, à les intégrer en moi, déjà simplement en les prenant dans ma main, en les mettant dans ma bouche, etc., en les mastiquant. Tout ça, c'est une première intégration. Et on va commencer donc de manière profonde à fabriquer des énergies. Alors, le réchauffeur médian, qui est de l'ordre de l'homme, c'est justement lui qui va intégrer, hein, parce qu'on va retrouver, vous avez vu dans cette partition, on va retrouver tout ce qui est digestif, hein, l'estomac, etc., tout ça va se retrouver dans le réchauffeur médian, ce niveau médian, où donc on va avoir des transformations, la digestion est vue comme une cuisson, hein, donc on va retirer donc tout ce qui va être utilisable, ce qu'on appelle les essences, et les liquides organiques qui vont former après, comme je vous le disais, le sang, la lymphe, entre autres. Ces énergies, ces essences vont être passées au foyer, au réchauffeur supérieur, qui est de l'ordre donc du ciel, qui va recevoir et lui distribuer toutes ces énergies, les souffles, le sang, etc., les liquides organiques dans tout le corps. Enfin, dans tout le corps, à des structures qui va permettre de distribuer. Et le réchauffeur inférieur, lui, bien sûr, on est près des zones d'élimination, tout simplement. Donc on va trier le pur et l'impur, comme on dit dans la tradition chinoise, pour essayer de récupérer encore un peu d'énergie. Et puis ce qui est vraiment irrécupérable, ben, on l'élimine. On sait tous comment ça se passe. Après arrive le deuxième étage. Alors le deuxième étage, c'est particulier, c'est très très peu connu dans le grand public. Parce qu'on parle toujours des méridiens, mais il y a des tas d'autres voies de circulation d'énergie, et notamment ce deuxième étage qui est, vous le voyez, on va le voir ici, ce qu'on appelle les 8 vaisseaux, où on en a 4 yang, ils sont en rouge, et 4 yin, ils sont en bleu, c'est des représentations, c'est un accord, le bleu et le rouge, comme en électricité, vous savez, le positif et le négatif, c'est la même chose. Ces 8 vaisseaux qu'on appelle vaisseaux extraordinaires ou vaisseaux curieux, etc., enfin il y a des appellations diverses et variées, donc qui vont se travailler par couple. Et alors, les premiers de ces vaisseaux, c'est ce qu'on appelle le Chongmai et le Taimai. Le Chongmai, c'est le merveilleux vaisseau de la profondeur. C'est lui, si vous voulez, qui a pour rôle de prendre les énergies des foyers et de les faire monter pour arriver à les faire à une distribution. Le Taimai, lui, toutes les voies de circulation d'énergie vont de bas en haut ou de haut en bas. Et le Taimai, lui, on l'appelle le merveilleux vaisseau ceinture, parce qu'il est vraiment au niveau de la ceinture, et il va un petit peu, comme on lit une gerbe de blé, c'est lui qui va faire le lien, donc il est en superficie, c'est lui qui va faire le lien de toutes les énergies une fois qu'elles sont distribuées. Après, une autre notion, c'est le Tumai et le Renmai, le Genmo, qui sont les deux lignes médianes antérieures du corps, où on va retrouver au niveau du Tumai tout ce qui est la production et le réservoir de l'énergie Yang pour le corps, et au niveau du Renmai, toute la production de l'énergie Yin. Donc, ces deux merveilleux vaisseaux qui sont des structures, là aussi, de circulation d'énergie, avec d'ailleurs leurs points d'acupuncture propres. Donc, j'essaye d'être vraiment le plus synthétique possible. Il en reste encore 4. On va avoir le Yang et le Yin Tiaomai, qui, eux, vont, par exemple, s'occuper de l'éveil et du sommeil. Le Yang Tiaomai, qui va être l'accélérateur du Yang, donc le côté de l'éveil, le côté de la mise en mouvement, le côté du dynamisme, et le Yin Tiaomai, qui lui va distribuer le Yin, et qui, même dans le mouvement, va s'occuper par exemple du côté statique, du côté structurel, par exemple de la posture, et c'est lui qui s'occupe notamment du sommeil. Donc quand les gens ont des problèmes d'insomnie, parfois ça peut être un problème de merveilleux vaisseaux aussi. Et les deux derniers, le Yang et le Yin, le Yang Wei et le Yin Wei Mai, eux vont organiser les espaces dans le sens où, par exemple, le Yang Wei va s'occuper, c'est ces deux merveilleux vaisseaux qui vont s'occuper des alternances, qui vont s'occuper des cycles. Par exemple, le Yang Wei va s'occuper, par exemple, de la thermorégulation. Du chaud-froid, hein, etc. Le Inoue, lui, va s'occuper notamment de très très émotionnel et est en relation aussi avec toute la sexualité. On va retrouver encore tout ce lien avec ces merveilleux vaisseaux. Donc, Si vous l'avez vu, je ne sais pas si on l'a vu sur au début, mais on voit qu'on a fait des correspondances des fonctions de ces merveilleux vaisseaux aussi avec le système endocrinien. Je ne sais pas si vous avez vu, on avait vu hypophyse, hypothalamus, etc. Donc on retrouve des ponts parce qu'on retrouve des similitudes au niveau de la symptomatologie. On arrive au troisième étage. Alors ce troisième étage, il est double, donc on va prendre le troisième étage l'un après l'autre. Alors d'abord les six qualités du ciel que vous avez à gauche. Les six qualités du ciel, alors ça c'est, on va retrouver ici de nombreux éléments qui sont assez répandus, disons, médiatiquement. C'est-à-dire, on va retrouver déjà les méridiens. Alors ces fameux méridiens, ces circulations d'énergie au niveau du corps, il y a des méridiens yin, des méridiens yang. Voilà une représentation ancienne et puis une représentation, enfin une petite, ce qu'on a tous dans les cabinets pour montrer aux patients des territoires. Ces méridiens, déjà, il faut savoir que les représentations qu'on voit en superficie sont simplement ce qui est à la surface, mais quand ils ont eux-mêmes ce qu'on appelle des branches internes, et vous voyez ici le méridien de vésicule biliaire, hein, tout le long, qui va retrouver des branches internes qui vont passer par les organes génitaux, par la vésicule biliaire, le foie, traverser le diaphragme, ensuite par exemple ici pénétrer dans l'oreille interne, vous voyez, etc. Donc par exemple expliquer des symptomatologies, par exemple de vertiges liées avec ce qu'on appelle la vésicule biliaire. Là encore, quand je dis le mot vésicule biliaire, c'est du français. Si on prend le mot chinois, c'est beaucoup plus large. Quand on dit poumon en médecine chinoise, c'est pas le poumon seulement l'organe, c'est toute la sphère ORL, c'est la peau, c'est le système nerveux central, ça va très très loin, c'est un soufflet qui va prendre les énergies du ciel et qui va les amener vers la terre, un mouvement vers le bas sans arrêt, hein. Donc il met en lien le ciel, oui. Une foule d'éléments qu'on a réduit nous simplement à une fonction organique. C'est comme ça pour tous les méridiens et pour tous les noms d'organes. Alors ces méridiens, vous les voyez, poumons, gros intestin, estomac, si on fait le tour, rate, cœur, intestin grêle, vessie, rein, maître du cœur, triple réchauffeur, c'est des notions un peu particulières, vésicule biliaire et foie, donc on a un petit peu l'ensemble des organes et des viscères. Ces méridiens vont nous permettre déjà de voir une circulation de l'énergie. Alors vous connaissez tous ce qu'est un sélénoïde, c'est un morceau de fer doux dans lequel on est entouré d'un fil électrique, et puis donc à ce moment-là, il y a un champ magnétique qui va se générer. Hein, c'est ce qui se passe avec les électroaimants, par exemple. Et bien, le système des méridiens est exactement organisé comme ça. Si vous prenez le corps humain, vous voyez que si on commence au niveau du poumon, et bien, le premier point du poumon ici et son dernier point, vous voyez, on a une succession comme ça qui va monter, qui va redescendre, méridien yin en méridien yang, on va au fur et à mesure faire comme ça toute une succession, un enroulement de spires avec les méridiens qui vont se succéder. Et si on met un individu debout comme ça, on a cette succession qui va entraîner déjà une tendance à une circulation d'énergie déjà elle-même. Se rappelant le solénoïde. Vous voyez ici, vous voyez le poumon qui va commencer ici, hein, on va faire, qui arrive ici juste au niveau du pouce, et puis après au niveau de l'index, on a le gros intestin qui va remonter jusqu'au niveau de la face, l'estomac qui part de la face et qui arrive au pied sur le deuxième orteil, et puis on arrive à la rate sur le premier orteil, au son premier point qui arrive à son dernier point au niveau du thorax, etc. Hein, donc je ne vais pas faire tout le tour. Vous voyez, il y a cette succession, déjà. Aussi, il y a cette fameuse horloge biologique, c'est-à-dire que, vous le voyez, le système est divisé en 12 heures, puisque le temps de l'horloge c'est des heures de 2 heures en 2 heures. Et donc, vous voyez, on dit que l'énergie rentre. Ici, vous avez à 4 heures du matin, c'est l'heure de magnitude d'énergie du poumon. Hein, c'est-à-dire des heures, on retrouve un petit peu au niveau de la symptomatologie des heures des crises d'asthme, par exemple, ou les heures des crises cardiaques à midi, etc. On retrouve en chronobiologie aujourd'hui des similitudes assez intéressantes. Et donc ça, c'est un système où on a des magnitudes d'énergie qui vont passer d'un organe à l'autre, d'un système à l'autre, d'un méridien à l'autre, avec une circulation. Quand l'un est en magnitude, son opposé, lui, est au minimum de son énergie. Hein. Donc ça encore, c'est cette horloge biologique de ce système des méridiens. C'est aussi, étant donné qu'on est en superficie, c'est aussi un système de défense par rapport au climat, aux agressions externes, puisque vous voyez, on a les méridiens organisés deux par deux pour charger de nous défendre contre l'hygrométrie, la température, le chaud-froid, donc l'humide, le sec, et puis la pression-dépression. Alors ces climats, ce sont des énergies normales dans lesquelles on vit, mais quand elles viennent nous agresser, on appelle ça des xuées, c'est-à-dire des énergies perverses. Alors c'est un mot que j'essaie de ne pas employer, c'est parce que quand on est avec une patiente et qu'on lui dit « Madame, vous avez des énergies perverses », en général... Donc on préfère employer le mot perturbé. Donc on l'enseigne plutôt comme ça, parce que sinon perverse, ça prête à confusion. Alors le vent, d'abord. Le vent, c'est une énergie très mobile, très labile. C'est, on pourrait dire, le commando. Hein, le commando qui est discret, qui ne fait pas de bruit. C'est toujours ces agressions extérieures, elles sont toujours vues dans la médecine chinoise comme arrivant à pas de loup. C'est-à-dire c'est le petit courant d'air, hein. C'est pas le grand vent que vous voyez derrière la vitre. En général, à ce moment-là, les méridiens et l'énergie défensive, si on est en bonne santé, fait le nécessaire, et on n'attrapera pas froid si, ou quoi que ce soit, si on est prévenu, ne fût-ce que par la vue. Donc ce vent, lui, on dit, c'est le fer de lance des pathologies, c'est lui qui pénètre par les petits interstices. Il va donner, par exemple, au niveau de douleur, il va donner des douleurs qu'on appelle erratiques, des gens qui vous disent un jour du mal à l'épaule, après ça passe au coude, ensuite, etc. Et lui, c'est lui qui va être précurseur, si vous voulez, pour ouvrir les portes de la cité, de notre cité, à des pathologies plus lourdes, enfin à des agresseurs plus lourds que sont, par exemple, le froid ou l'humidité. Le froid, c'est une douleur froide, c'est une douleur douloureuse, j'allais dire. Hein. Quelque chose d'extrêmement douloureux, c'est le pic de glace, qui est extrêmement statique, hein, et qui fait des douleurs qui sont extrêmement punctiformes. L'humidité, elle, c'est ce qu'on appelle, nous, des douleurs mécaniques. C'est quelqu'un qui va avoir un temps pour se réveiller le matin, pour se lever, se mettre en route, et puis une fois qu'il est en route, ben, ça va mieux, et ça ira mieux, puis au bout du compte, le soir, s'il en fait trop, ça va à nouveau lui faire mal. L'humidité, on dit qu'elle est lourde, qu'elle est pesante, vous voyez, c'est quelque chose qui englue. Elle est de l'ordre de la chronicité. L'humidité, on dit qu'elle est impure aussi, hein, parce que c'est là que peuvent se faire les putréfactions. Voilà. La sécheresse, elle est assez rare sous nos latitudes. Et puis, juste un mot sur la chaleur, le feu. L'humidité contient en elle aussi cette notion de chaleur. Et le gros danger, c'est quand cette chaleur va augmenter jusqu'à devenir du feu. Parce que le feu, c'est l'angoisse de tous les Chinois, puisque la plupart des palais, des temples sont tous construits en bois. Et donc, si vous allez en Chine, vous voyez toujours, il y a d'immenses chaudrons en bronze qui sont devant les temples, qui étaient des réservoirs d'eau. Aujourd'hui, il y a des extincteurs de partout, parce qu'il faut faire très attention au feu. Et donc là aussi, pour nous, le feu, c'est quelque chose de très agressif, et qu'on a des points d'acupuncture qui luttent contre le feu, c'est des points très précieux. Donc voilà tous des climats qui peuvent pénétrer, nous agresser, et nos méridiens sont là pour nous protéger avec ce qu'on appelle une énergie défensive, c'est-à-dire c'est notre immunité, qu'on appelle tout simplement Wei Qi. On voit ici les frontières de la Chine, parce que pour les Chinois, on dit que les frontières de la Chine sont là où commence la prairie. Parce que les Chinois, il ne faut pas l'oublier, sont des sédentaires, encore une fois, et donc ce n'est pas des éleveurs. Les prairies, c'est fait pour les nomades. Les nomades, eux, peuvent se promener avec leurs troupeaux. Les Chinois, traditionnellement, dans leur nourriture d'ailleurs, si vous voyez, ils ont des animaux qui sont des animaux qui ne sont pas élevés. C'est des animaux qui vivent avec l'homme, c'est-à-dire qui mangent les restes de l'homme, principalement le porc, le poulet ou le canard et le chien. Hein, c'est trois types d'animaux que, ben, il en reste, on leur donne. Il n'y a pas besoin d'aller les faire paître ou quoi que ce soit. Ils se débrouillent. Là, après, c'est pour ce qui est à l'extérieur, c'est à l'étranger, ce dont on a peur, c'est-à-dire les nomades. Les méridiens aussi, ça va nous donner une topographie, c'est-à-dire qu'en fonction du passage du méridien, s'il y a une expression par une douleur, par une démangeaison, par une éruption, quoi que ce soit, on va se poser la question sur quel méridien ça sort, voir s'il y a, en interrogeant le patient, s'il y a une correspondance. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, si on a une épicondylite, on va dire, tiens, le gros intestin est pas loin. On va se poser des questions là-dessus. Si on a une épitrochléite, on va se dire, tiens, peut-être l'intestin grêle. Si on a une sciatique ou une sciatalgie postérieure, on va se dire, c'est peut-être le méridien de vessie, un problème d'élimination. Si on a une sciatalgie latérale, on va se dire, tiens, c'est plus vésicule biliaire. Est-ce qu'il y a un problème au niveau digestif, etc. Vous voyez, comme des douleurs en bretelles ou bien alors des maux de tête latéraux, tout ça, ça intéresse la vésicule biliaire et on va travailler. Bien sûr, interroger et travailler en fonction de cette topographie. C'est une lecture du corps qui est très, très, très intéressante et très importante. Bien sûr, il y a un décodage vertébral sur lequel je vais passer immédiatement, puisque à chaque niveau vertébral va correspondre soit un organe, voyez, poumon, cœur, etc., soit une fonction organique, hein, soit la fonction respiratoire, soit le poumon lui-même. Donc là encore, correspondance d'ailleurs avec nos amis ostéopathes, qui, ayant une tradition, eux, qui a à peu près 200 ans d'âge, sont arrivés exactement au même décodage que celui de la médecine chinoise. Là encore, une superposition de deux traditions, c'est assez intéressant. Alors, le troisième étage, l'autre côté, c'est les cinq éléments, les fameux cinq éléments, qu'on appelle aussi les cinq mouvements. Alors, ces cinq éléments, vous les connaissez, bois, feu, terre, métal et eau. Hein. On peut les retrouver chez nos alchimistes occidentaux sous des termes un petit peu différents. Hein. Mais on retrouve ces éléments en Chine, bois, feu, terre, métal, eau. Et comme on pouvait tout classer suivant le yin-yang, on va aussi pouvoir tout classer suivant le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à des étudiants qui sont un petit peu avancés, on leur dit, ben voyez, quand on vous parlait du bois, vous pensiez au bois de la table ou au bois de l'arbre, et puis aujourd'hui, le bois, pour vous, ça veut dire encore autre chose. Hein, vous avez acquis une culture, on va le voir, le bois, c'est aussi le printemps, c'est l'est, c'est le vent, c'est la couleur verte, etc. Tout ça, ça devient naturel. Hein, on est imbibé tout doucement d'une culture, et on dit que c'est la tradition des évidences. Hein, tout doucement, ça rentre. Alors, ces cinq saisons, en vérité, elles sont quatre plus une. Donc les quatre saisons qu'on connaît habituellement. Alors chez nous, les saisons, vous le savez, elles commencent au solstice d'été, pour l'été, c'est-à-dire le jour le plus long ou le jour le plus court, et puis les deux équinoxes au milieu. D'accord ? Donc on part dans ces positions au niveau saisonnier pour déterminer la saison. Donc on part donc avec des plus. Le solstice d'été, le jour le plus long. L'hiver, c'est le jour le plus court. Hein, j'ai pris des choses pour simplifier. Et puis les équinoxes d'automne et de printemps. Hein, et avec ça, la totalité, on a la rotation de la Terre autour du Soleil. Dans la vision énergétique, c'est pas logique de commencer une saison à un maximum. Donc, déjà, il y a un décalage qui fait que nos saisons, au niveau énergétique, elles commencent avec un mois et demi d'avance. C'est-à-dire que on commence jamais à un maximum, c'est-à-dire le solstice d'hiver, mais le solstice d'hiver, c'est le milieu de la saison. Il est précédé par la moitié d'une saison, donc une saison, ça fait 3 mois, donc on va avoir un mois et demi d'avance. Hein, et donc on va retrouver ce positionnement des saisons au niveau énergétique. Et tout le monde sait, tout jardinier, si vous avez un jardin, vous savez très bien, tout le monde sait qu'à la mi-février, c'est pas seulement le nouvel an chinois, hein, mais c'est aussi là que la sève commence à monter dans les arbres, dans les plantes. C'est le démarrage. Nous, occidentaux, on ne croit que ce qu'on voit. Donc automatiquement, quand on voit les arbres en fleurs, on dit « c'est le printemps ». Mais ça fait un mois et demi que ça a commencé pour arriver à ce résultat. Donc vous voyez, donc après, donc les saisons qui ont ce décalage d'un mois et demi. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a cette notion d'intersaison, c'est-à-dire que chaque saison, si on prend les énergies du printemps, eh ben, pour passer d'une saison à la suivante, pour passer du printemps à l'été, les énergies vont aller au centre, donc on va passer par la Terre, qui est considérée comme le centre, qui elle va transmuter, transformer les énergies et les passer à la saison suivante, à l'été, etc. À chaque fois, il y a ce passage par le centre. D'accord, qui fait qu'on retrouve ce passage à chaque fois une intersaison. Donc ici, vous voyez dans ce schéma, entre chaque saison, vous avez une intersaison. On dit traditionnellement les 18 derniers jours de la saison appartiennent à l'intersaison. Disons donc que les 15 derniers jours de la saison, c'est une période où les énergies sont en mutation et où parfois il est assez un petit peu délicat de travailler sur certains patients. Alors voilà, je vous le disais, tout peut se classer en fonction des cinq éléments. Hein, vous voyez, le printemps laisse les tendons, le vert, les vaisseaux pour le sud, enfin, j'en passe. Donc tout ce qui peut se retrouver autour de nous va pouvoir être classé en fonction de ce qu'il peut avoir une tendance au bois, au feu, à la terre, au métal ou à l'eau. Tout ça, bien sûr. Alors les éléments, on a vu les cinq éléments, c'est aussi cinq mouvements. Alors parce que la vision chinoise est toujours en mouvement. Le mot cinq éléments, c'est encore une erreur de traduction. C'est cette notion de mouvement qu'il faut voir. Et le bois, c'est cette notion de mouvement, de bois propulsif. Quand on dit le bois, c'est le bois du bourgeon, le bois vert, hein, c'est pas le bois de la table. C'est vraiment l'enfance, hein, c'est quelque chose qui est un mouvement de très puissant. Hein. Un enfant, c'est quelqu'un qui est capable de retrouver un état de santé de manière très rapide si on lui donne l'indication. Donc c'est cette croissance. Hein. Après, on arrive au feu. Ici, à l'été, donc on arrive à cette position d'expansion maximum, les énergies sont au maximum de leur expansion, avec bien sûr une potentialité de retour vers le centre, parce qu'il va bien falloir redescendre, vous savez, c'est comme un jet d'eau. Hein. Si vous mettez la main en bas du jet d'eau, vous avez la notion de ce que c'est que le bois, que le mouvement du bois. Si vous êtes tout à fait en haut du jet d'eau, c'est le mouvement du feu. Si vous êtes au niveau du métal à l'automne, à ce moment-là, c'est l'eau qui redescend, hein. Vous allez la sentir, mais si vous appuyez, elle s'effondre. Donc c'est ce mouvement vers le retour, et puis vous avez en hiver cette condensation, cette concentration de la force qui serait un petit peu l'eau qui pousse derrière le robinet quand il est fermé, voilà, hein, disons. Voilà. La Terre étant bien sûr l'intersaison de transmutation. Hein, donc il y a des mouvements comme ça qui sont générés au niveau des saisons. Bien sûr, ces cinq éléments ont des correspondances au niveau des organes et des viscères. Hein, ici, on voit dans le bois le foie, la vésicule biliaire, le cœur, l'intestin grêle, etc. La rate, l'estomac pour la terre, le poumon, le gros intestin pour le métal, et le rein et la vessie pour l'eau. Alors on dit le rein et pas les reins, parce qu'on ne parle pas de l'organe lui-même, hein, on parle du rein dans sa vision globale, bien sûr. Et puis eux aussi, bien sûr, ont des, comme je vous le disais, des correspondances avec le feu, le cœur étant l'empereur, le bois étant, par exemple, le général des armées, et le vésicule biliaire étant le juge. Hein, c'est pour ça qu'il est toujours bon que la vésicule biliaire ait une énergie un petit peu supérieure à celle du foie, parce qu'une société, pour qu'elle tourne rond, il faut que la loi s'applique, parce que la loi, c'est la loi du ciel, donc elle est très souple. Hein, on peut vivre tous de manière très différente sur cette planète, et le ciel nous laisse vivre. Par contre, quand le juge est dépassé, ben, il téléphone au général, il dit « là, je peux plus ». Donc il faut sortir des casernes. Et le général, lui, n'applique pas la loi, il applique la règle. Et la règle, elle est carrée, elle est de l'ordre de la terre, justement, et ça fait très très mal. Donc il vaut mieux que... Hein, le foie est connu pour ses grandes colères. Relations, justement, là aussi, entre tous ces organes, avec, par exemple, un cycle de contrôle, où on voit que le bois se nourrit de la terre, qui va absorber l'eau qui va éteindre le feu qui va faire fondre le métal, et le métal qui va couper le bois, enfin, etc., toute une symbolique, mais qui donne aussi des relations qu'on va utiliser en thérapeutique au niveau pour pouvoir tonifier, disperser, amener de l'énergie ou en faire circuler quand on a des excès ou des insuffisances. Ces lois-là sont pas seulement de l'ordre du symbole, je vous le répète, on est toujours dans l'analogie, c'est-à-dire il y a une continuité entre ce qui peut se passer au niveau des mouvements de la planète, des mouvements des climats, et puis ce qui peut se passer en nous. Alors voilà, je vous le disais, on peut tout classer suivant bois, feu, terre, métal, eau, hein, les orients, les saisons, enfin, etc. On va passer rapidement là-dessus, il y a des listes qui n'en finissent plus. Juste un mot sur les entités viscérales, parce que je me suis dit, on va me poser la question, et alors, et le cerveau, par exemple, hein, où est-ce qu'il est le cerveau? Ah non, pardon, j'ai avancé trop vite. D'abord, les entités viscérales. Les entités viscérales, c'est cette vision aussi que, dans la vision chinoise, comme je vous l'ai dit, il y a une continuité. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de solution de continuité entre l'émotionnel et le physique. Preuve en est, c'est que les émotions, on les appelle les entités viscérales, comme si c'est quelque chose qui habite la matière et qui vient de la matière. Donc on retrouve ces cinq entités viscérales, vous avez compris, comme les cinq éléments, hein, avec par exemple ici le foie, avec le run qui va se manifester par la colère, par exemple, le chêne avec la joie, la rate avec le i avec l'observation, le pro avec la tristesse, les gens qui ont une insuffisance du pro peuvent être des suicidaires, puisqu'on peut, là, on peut se désintéresser même, le désintéresser de soi-même, et puis le rein, avec le chré, qui, lui, va être lié à tout ce qui est de la peur. Hein. La peur. On voit, nous aussi, le lien, quand on parle du rein, on voit tout de suite que les surrénales sont aussi comprises, hein, dans cette vision chinoise du rein. Voilà, ceux-là où je voulais en parler, c'était les entrailles curieuses, dont on va dire vraiment juste deux mots, on va passer, parce que je vois que le temps tourne, et qu'on a encore pas mal de choses à voir. Donc le cerveau et les moelles, qui, elles, vont être de l'ordre du ciel, Le cerveau, lui, alors on a toujours dans ces entités curieuses, dans ces entrailles curieuses, donc vous voyez, c'est le cerveau, les moelles, les os et les vaisseaux, et puis la vésicule biliaire, et puis l'utérus, en fait, tout ce qui est de l'ordre, tout ça, on n'en a pas parlé dans les organes et viscères. Hein. Ça existe quand même, c'est pris en compte, bien sûr, dans la vision chinoise. Le cerveau, et il y a toujours un qui est lié à une notion de feu, et l'autre qui est lié à une notion d'eau, le cerveau étant lié au cœur. Mais c'est non pas le cœur qui lui est la source des chaînes de toutes les émotions, mais c'est la dualité des émotions. Hein. On retrouve ce côté yin-yang au niveau du cerveau, et c'est amusant parce qu'on retrouve justement ces deux hémisphères. Donc on va passer un petit peu là-dessus, c'est des notions qui sont à la marge, je dirais, dont on se sert assez peu souvent, où on va retrouver un petit peu toutes ces entrailles curieuses hein, qui sont également prises en compte. Elles ne sont pas mises de côté. Alors, pour arriver maintenant à des choses plus pratiques, on va dire aussi, c'est la notion de la consultation. Alors, comment ça se passe? Déjà, il y a ce temps que je note, c'est la salle d'attente. C'est un moment important. Et je sais que même si je n'ai rien à faire, même si j'ai un patient qui m'a fait faux bond et que j'attends, que je suis en train de faire mes affaires personnelles, m'occuper de ma comptabilité ou je ne sais quoi, et ben quand le patient arrive, je pourrais le faire rentrer tout de suite. Il n'est pas question de le faire rentrer tout de suite. Il faut le faire attendre. Il faut le faire attendre, justement, c'est cette notion de vacuité. C'est-à-dire lui donner la chance de pouvoir faire un vide entre le monde extérieur, où il sort de son parc-maître, il sort de ce qui s'est fait engueuler avec sa femme, ou de son problème avec le banquier, je ne sais quoi. Il sort de cette agitation et il va rentrer dans le monde de la consultation. S'il arrive tout de suite devant moi, automatiquement, ça va être un chaudron agité. Hein. Vous savez, une des plus belles représentations du Tao, moi je trouve une des plus belles représentations du Tao, c'est la surface du lac. Vous savez, si vous êtes allé en montagne, vous êtes réveillé, vous avez dormi au bord d'un lac, vous sortez de la tente le matin, vous sortez de votre sac de couchage, vous avez le lac, c'est un miroir. Et quand vous vous penchez, vous avez la vision du Tao, c'est-à-dire que vous avez la vision du yin et du yang, la vision de la terre et du ciel, c'est-à-dire que vous avez la vision du fond du lac, et la vision du ciel qui se reflète sur la surface du lac. C'est-à-dire sur cette surface, vous avez cette union du ciel et de la terre, du yin et du yang. Et puis au moindre souffle, à la moindre agitation, c'est-à-dire dès qu'il y a la vie qui se met en route, eh ben, c'est justement cette agitation qui fait qu'il y a un clapotis et on n'a plus cette vision. On est toujours en déséquilibre, encore une fois. Donc donner le temps au patient de prendre le temps de se poser. Après, bien sûr, on va l'interroger, l'observer, etc. Il y a des auscultations, des palpations abdominales, des palpations des tissus, l'observation au niveau des yeux, des ongles, etc. Il y a une foule d'observations qui sont toujours d'actualité, qui ont été d'actualité en médecine occidentale et qui, avec certains appareillages maintenant, etc., on a un peu laissé de côté. Notamment, on va le voir justement, la palpation des pouls, qui est très, très importante en médecine chinoise. On prend les pouls radio. Et les pouls radio, ils sont 12. Il y en a 6 d'un côté et 6 de l'autre, 6 à droite et 6 à gauche. Voilà, ils s'organisent comme ça. Vous avez les deux poignets ici. Hein, ça se passe au niveau des trois, vraiment la prise du pouls à trois doigts sur l'artère radiale. Et vous avez une prise de pouls qui va, où on va avoir une pression maximum sur l'artère et on relâche un tout petit peu, on va sentir ce qui se passe sous le doigt. Ça, c'est pour les organes. Vous les voyez ici en bleu, en profondeur. Alors, à droite, vous voyez, on a poumon, rate, maître du cœur. À gauche, on a cœur, foie, rein. Et puis, quand on est en superficie et que le pouls est prêt de nous lâcher, on a la pulsation qui correspond aux viscères. D'accord ? Et donc, comme ça, on retrouve nos couples, poumon, gros intestin, rate, estomac, etc., où on va pouvoir prendre ce qu'on appelle les pouls. Alors, c'est quoi ces pouls ? C'est quelque chose encore un peu mystérieux au niveau de la recherche, même en médecine chinoise, puisque les pouls vont... On va déjà voir, sentir sous le doigt si on sent une notion de vide ou de plénitude. C'est-à-dire, est-ce que ça va fort ou est-ce que ça va pas assez fort, tout simplement, pour simplifier. Ça, c'est une première vision. C'est plein ou c'est vide. Après, il y a des pouls qui vont se modifier en fonction des saisons. Alors bien sûr, les pouls, il faut en prendre des centaines, sinon des milliers, pour arriver à avoir la sensation des pouls au niveau du bout des doigts. C'est vraiment très tactile. Puisque le pouls du printemps, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce côté tendu, ce côté, comme on dit, comme une corde d'un arc. On appuie dessus, on appuie sur le pouls et il résiste. Alors que le pouls de l'hiver, par exemple, on dit, il est comme un petit caillou au fond de la rivière. C'est-à-dire, on va le chercher en profondeur et là, on va le trouver. Il est très profond, etc. Donc, il y a une évolution des pouls, là aussi, en fonction des saisons. Et puis, pour finir aussi, bien sûr, il y a une évolution dans chaque saison, il y a des rapports entre les différents méridiens qui vont suivre la saison, c'est-à-dire que chacun à son tour va se retrouver l'organe principal. Au printemps, ça va être le foie, en hiver, c'est le rein, en été, c'est le cœur, etc. Chacun donc va avoir son pouls qui va dominer les autres. Donc tout ça, c'est la normalité du pouls. Après, bien sûr, les pouls vont devenir anormaux, bien sûr, avec le déséquilibre pathologique du patient. En plus, on a des pouls, après des pouls, je ne sais pas si je les ai mis, non, je ne l'ai pas mis là. On a des pouls, si on revient en arrière, vous voyez ici, il y a des pouls, des formes de pouls particulières qui sont répertoriées, qui ont un sens bien particulier. Par exemple, celui-ci, là, en petit chapelet, en petit grain, c'est le pouls de la femme enceinte, par exemple. Où on sent passer comme des petits grains, comme un petit chapelet sous le doigt. Hein. Ça roule sous le doigt. C'est amusant de parler, de dire à une jeune femme, tiens, vous avez un pouls particulier, on dirait un pouls d'une femme enceinte. Non, c'est pas possible. Et puis qui vous téléphone après, vous saviez, vous aviez raison. C'est toujours amusant. Bon. C'est amusant aussi d'ailleurs de prendre le pouls et de dire au patient, ah, vous avez un pouls de vésicule biliaire qui bat très très fort. Et là, le patient qui vous dit, ah, mais je n'ai plus de vésicule biliaire. Alors, bien, on lui explique, mais oui, justement, l'organe, lui, utilise. Elle fait partie du système vésicule-biliaire. Mais cette énergie de vésicule-biliaire, elle existe quand même. Par contre, elle est beaucoup moins utilisée puisqu'il n'y a plus l'organe. Donc automatiquement, on va avoir tendance à avoir un excès du pouls. Et quelque part, le fait de dire, tiens, vous avez un pouls qui bat fort, ben, ça peut justifier en effet le fait qu'il y ait eu une ablation de la vésicule-biliaire. Donc les pouls, c'est quelque chose de très, très, très important dans l'approche du patient. Et on a très peu pour l'instant de conclusions satisfaisantes au niveau de la recherche. Alors vous voyez, il y a des systèmes où on essaie de. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Il y a des travaux qui aujourd'hui s'orientent sur la dynamique des fluides, qui, quand ils traversent différents organes, etc., c'est des choses extrêmement compliquées que font les physiciens, et où on aurait peut-être un début d'explication. Enfin bon, ça c'est encore de l'ordre un peu mystérieux, cette manière de prendre les pouls. Et puis il y a une autre. Les pouls changent aussi très rapidement. C'est-à-dire, on fait 3 points d'acupuncture, on reprend les pouls, ils ont changé. C'est très rapide. Alors que la langue, elle, est un examen qui, elle, est de l'ordre de la chronicité. Une langue, pour qu'elle change, il va lui falloir une semaine, 10 jours, 15 jours. Et donc, vous voyez, il y a des topographies comme ça de la langue, où quand on va examiner une langue, on va pouvoir voir tout simplement sous ses yeux. C'est plus facile que les pouls à appréhender pour celui qui démarre. On va pouvoir appréhender des couleurs, des textures, des formes, etc. Donc je vous en ai mis 2 par exemple ici. Vous voyez, 2 langues, je suis désolé, hein, mais bon, dans les cabinets de médecine chinoise, on demande aux patients, on dit faites comme vous étiez enfant, tirez-moi la langue. Ils sont tout contents. Alors, vous voyez ici, par exemple, formation de chaleur, stase de qi du foie avec la chaleur. On a vu que le foie, c'était sur le côté. Chaleur, ça veut dire que c'est rouge. Vous voyez, il y a une rougeur sur les côtés de la langue. Ici, on a une chaleur qui va attaquer l'estomac. Et donc, on retrouve ici, l'estomac, c'est au centre, on retrouve ici donc un petit effondrement du centre de la langue, avec un enduit qui est un peu jaune. Hein, dès qu'il y a une notion de chaleur, on va vers le jaune, le roussi, le grillé, vous voyez. Et bien sûr, avec des petits points ici rouges au bout de la langue, qui est une chaleur au niveau du cœur, puisque c'est la zone du cœur. Alors donc une langue très différente de celle-ci, où on a une atteinte de ce qu'on appelle du yang de la rate, et une rétention d'humidité, parce que la langue est très grosse, gonflée, luisante. Et puis vous voyez, le yang de la rate, c'est quoi? C'est parce que la rate, elle, est chargée de maintenir. Un de ses rôles, c'est de maintenir, par exemple, maintenir le sang dans les vaisseaux, maintenir les organes à leur place, maintenir la forme des choses. Et elle maintient les formes, et donc quand le yang de rate est insuffisant, par exemple, la langue va se laisser aller et prendre la forme des dents. Donc ce yang de rate qui, lui, normalement, regroupe la langue et elle n'a pas la forme des dents, l'empreinte des dents, là, on va retrouver cette empreinte des dents. C'est assez caractéristique d'une insuffisance du yang de rate, ce côté indenté. Alors, le traitement, bien sûr, le plus connu, c'est déjà l'acupuncture, avec le traitement à l'aiguille. ou au doigt d'ailleurs, puisqu'on travaille aussi bien à l'aiguille qu'au doigt. On travaille très souvent au doigt, par exemple chez des enfants, parce que surtout en Occident, il n'est pas question de mettre des aiguilles. Chez des personnes qui craignent les punctures, on peut très bien aussi travailler à l'aiguille. Mais c'est des patients aussi qui sont chez qui il ne faut pas d'aiguille. Par exemple, tout simplement, quand on analyse un patient et qu'il est extrêmement métal, caractère métal, caractère coupant, etc. Si on rajoute du métal dessus, on risque de l'aggraver, par exemple. Ou quelqu'un qui est extrêmement épuisé, fatigué, si le simple fait de la puncture va être une dépense d'énergie pour lui pour se défendre contre déjà ce tout petit traumatisme, et donc automatiquement, on n'utilise pas d'aiguille. Mais bon, le travail le plus classique se fait à l'aiguille. On fait un travail aussi à l'aiguille chauffée avec un produit qui s'appelle de l'armoise. Vous connaissez tous cette plante Artemisia vulgaris qui pousse au bord des chemins et qui est utilisée traditionnellement depuis toujours en Chine pour chauffer des aiguilles ou chauffer des points d'acupuncture, on va le voir tout à l'heure. On a essayé d'autres systèmes, infrarouge, etc., mais ça marche moins bien. Moi, je reste toujours fidèle à l'armoise, même si ça fait beaucoup de fumée. On a l'impression qu'on a fumé des choses bizarres quand on rentre. Mais le patient est vite rassuré quand il connaît pas, quand il voit d'où ça vient. Alors, dans l'aiguille, bien sûr, on va retrouver encore cette notion de ciel, de terre, etc. Avec le ciel de l'aiguille, c'est ce petit trou qui est en haut, et certains, du temps où on avait des aiguilles qui n'étaient pas jetables, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, par exemple, nous, dans notre fédération, tous les praticiens affiliés signent un papier comme quoi ils n'utilisent que du matériel à usage unique, donc ils l'utilisent une fois et jetable. Mais du temps où on avait du matériel qu'on stérilisait, si on allait travailler sur l'émotionnel, par exemple, on pouvait avoir des aiguilles avec un chat d'aiguille plus grand, c'est-à-dire qui allait capter l'énergie du ciel, plus que l'aiguille normale. Bon, maintenant, ça se fait plus tout ça. C'est de l'ordre du qualitatif plus que du quantitatif. Donc, l'aiguille, c'est quelque chose de particulier. Hein, et on retrouve ici cette notion en rapport un petit peu avec le sabre et l'étui du sabre qui, rappelons-le, est ce point d'acupuncture. Hein, bon, ici, une vieille estampe, c'est amusant. On voit des aiguilles qui sont assez inquiétantes et où on voit l'homme qui est guéri et qui danse en lâchant ses cannes, c'est merveilleux. Et puis une petite référence à Saint-Sébastien derrière. Alors, le point d'acupuncture, justement, il y a des recherches énormes qui sont faites, énormément de recherches qui sont faites. Beaucoup de recherches sont faites en Chine, bien sûr, vous pensez bien, sur la médecine chinoise. Mais elles ne sont pas prises en compte parce que c'est la Chine, donc on n'est pas sûr de ce qui se passe. Par contre, il y a d'énormes recherches qui sont faites aux États-Unis, au Canada, dans tous les pays nordiques. On sait depuis toujours, depuis très longtemps, que la résistance de la peau, si on prend un ohmmètre et qu'on le balade sur la peau a une résistance, une résistivité. Si on passe sur un point d'acupuncture, la résistance baisse. C'est comme ça qu'on a les détecteurs de points d'acupuncture, pour repérer un point. Si on prend ensuite la résistance entre deux points d'acupuncture d'un même méridien, là encore, la résistivité est plus basse. Donc il y avait déjà un présupposé de comme quoi, en effet, ça doit réellement exister, ce système. Et puis là, oui, j'ai une vieille archive hein, de 84, le temps passe, où on voyait le professeur, vous voyez, l'acupuncture lire enfin son secret, ça c'est des trucs très journalistiques, où on voyait le professeur Darras qui avait fait une expérience qu'on voit ici, oui voilà, où on a injecté des produits radioactifs dans des points d'acupuncture et où on voyait la progression avec des caméras bien sûr spéciales du produit, non pas en tache d'huile, mais qui suivait le méridien, etc. Donc il y a eu des tentatives d'expérimentation là-dessus. Aujourd'hui, il y a une expérience dernièrement aussi qui a été faite, je crois, en Allemagne avec les MOXA. Donc, vous voyez, ça, justement, c'est l'occasion de parler des MOXA. Le MOXA, c'est encore de l'armoise. Soit on le fait directement sur la peau, ça se fait moins en Occident, soit on le fait avec une sorte de bâton, donc comme des cigares dans lequel il y a de l'armoise, et on chauffe des points d'acupuncture pour obtenir une grande tonification ou lutter contre des énergies perturbées. Voilà, là, vous voyez, en faisant une moxibustion sur des points au niveau du sacrum, on voit s'éclairer en caméra thermique le méridien de vessie. C'est assez intéressant comme expérimentation. Ça a été fait en 2005. Là, il y a le nom de l'équipe qui a fait ça. Et puis, plus récemment, on a des expériences qui commencent à se multiplier maintenant. Grâce à l'imagerie médicale qui a fait d'énormes progrès et où on utilise des IRM fonctionnels. Et donc là, par exemple, une expérimentation où on envoie un flash lumineux et où on repère en imagerie fonctionnelle, bien sûr, la zone cérébrale qui réagit. Ensuite, on va travailler sur des points d'acupuncture, là aussi au niveau, du méridien de la vessie, réputés comme ayant une action sur la vue, et on voit ce qui se passe au niveau, s'il se passe quelque chose au niveau imagerie médicale, IRM fonctionnel, et puis on fait des non-points, c'est-à-dire on pique à 4-5 cm des points d'acupuncture pour voir si l'acupuncture placebo, elle, peut avoir un effet au niveau de l'imagerie médicale. Voilà. Ce qu'on obtient, c'est là. Vous voyez, quand le flash lumineux, on a tout de suite les réactions au niveau des aires concernées. Les points d'acupuncture sur le méridien de vessie en rapport avec la vue réagissent eux aussi. Et puis, quand on est en acupuncture placebo, on n'a plus de réaction. Il y a eu d'autres mêmes choses qui a été faite sur des points, d'autres points au niveau de l'ouïe, là aussi avec des simulations de l'ouïe ou des stimulations visuelles, et on a exactement là encore la même chose avec la stimulation visuelle, la réaction au niveau des points d'acupuncture, et puis l'acupuncture placebo qui n'entraîne aucune réaction au niveau cérébral. Ça, c'est pour les gens qui veulent voir pour croire. Donc ça commence à venir, ça commence à être très intéressant. Ça ne change rien pour nous au niveau des lois, ça fait que confirmer certaines choses. Oui, sa dernière expérience, celle qui a été faite en Angleterre là, par Hugh MacPherson, ça c'est le communiqué de l'ambassade de France en Angleterre, qui parlait de cette communication. J'ai entendu MacPherson l'année dernière à Zurich dans une conférence, et c'est une conférence c'est une des expériences qui sont passées un petit peu partout dans les médias, où on parlait justement de traitement en allopathie sur la douleur, en acupuncture et en acupuncture placebo, et où on s'est aperçu que les résultats étaient très intéressants en allopathie, avec 60-65% de réussite sur la douleur, 70-75% sur l'acupuncture, et 70% avec l'acupuncture placebo. Alors tout de suite, les médias ont dit, alors à quoi ça sert d'étudier autant d'années si c'est en piquant n'importe où? Bon, mais c'est bien connu sur la douleur que la douleur, c'est vu comme une accumulation d'énergie, comme une stase. Et le fait simplement de mettre des aiguilles n'importe où autour d'une douleur va permettre de libérer, de faire circuler. Donc c'est connu en acupuncture, on appelle ça des points hachis. Les points hachis, c'est des points même qui sont en dehors des points d'acupuncture, donc qui peuvent être considérés pour du placebo. Donc l'expérience, malheureusement, qui a duré 10 ans, c'est une expérience qui a été faite uniquement sur la douleur, alors que si elle avait été faite, et il y a d'autres expériences en cours maintenant, sur des choses où il n'y a pas de points hachis possibles, c'est-à-dire sur le sommeil, sur des troubles des règles, sur la digestion, sur de l'asthme, etc. Là, on a des résultats qui sont plus intéressants. Donc l'amoxibustion, autre moyen d'action, on en a parlé, on va passer, donc pour chauffer certains points d'acupuncture. Bien sûr, autre moyen d'action qui est énormément utilisé en Chine, c'est la pharmacopée chinoise. Alors ça, c'est un énorme pan de la médecine chinoise. La pharmacopée, qui suit exactement les mêmes lois que celles qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire que ces lois sont une base commune, ces lois saisonnières, ces lois avec les climats, toutes ces lois de circulation d'énergie, sont les mêmes qui vont être utilisées avec des moyens thérapeutiques différents, l'acupuncture, la moxibustion, la pharmacopée. Alors on dit pharmacopée et pas phytothérapie, puisque dans la pharmacopée, il y a des produits végétaux, il y a des produits minéraux, et il y a des produits animaux, il y a des venins, etc., qu'on va utiliser, avec même des fois des drogues qui sont mesurées. Et c'est ce qu'on voit en Chine, de partout, quand vous allez en Chine visiter un hôpital qui travaille en médecine traditionnelle. Souvent, d'ailleurs, c'est le patient lui-même qui va déjà décider sur quelle orientation il va s'orienter, sur l'acupuncture, sur la pharmacopée, sur le massage, le twina. Et puis, donc, vous voyez toutes ces fabrications, ces mélanges de plantes qui se font un peu partout et qui sont amenés après dans les services en fonction des prescriptions qui ont été faites. Donc très importante, beaucoup de recherches aussi qui sont faites par nos laboratoires, parce que bien sûr il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Bien sûr, nos laboratoires occidentaux, eux, veulent en tirer les principes actifs, c'est-à-dire qu'ils oublient complètement les lois de la médecine chinoise, et c'est bien dommage. Et puis la pharmacopée, elle commence tout doucement à rentrer en France, elle n'est pas encore rentrée, elle est rentrée bien bien dans les autres pays européens. En France, on est encore un pays où le principe de précaution est important, et parfois on a raison, notamment par rapport aux produits qui sont faits en Chine, où souvent il y a beaucoup de métaux lourds ou de pesticides. Et donc souvent, les produits qui viennent de médecine chinoise qui viennent souvent de Singapour, de Corée du Sud ou de Taïwan, où là, on a des modes de culture qui sont plus occidentalisés, on va dire. Enfin, ça, c'est des choses qui vont évoluer. Le Twina, autre grande partie, c'est tout ce qui est de l'ordre du massage et de la manipulation. Alors, tout ce qu'on peut voir, là aussi, au niveau du massage, qui souvent d'ailleurs, comme vous le voyez, se fait avec un patient habillé. Hein. Vous voyez, le patient est très peu. Les Chinois sont extrêmement pudiques, donc ils déshabillent très très peu, et notamment le massage se fait souvent sur des vêtements ou sur une serviette. Et on peut avoir certaines déceptions pour ceux qui veulent aller apprendre le massage thaïlandais, par exemple, où il se fait habiller, justement. Quand c'est déshabillé, c'est pour les touristes, c'est pour autre chose. Mais ça n'a plus rien à voir avec la tradition. Donc tout ce qui est massage, manipulation, qu'on retrouve au niveau, là aussi, de cette pratique de médecine traditionnelle chinoise, à ce moment-là. Et puis, il y a ce dont on a parlé comme moyen, ce sont les moyens ultimes, je dirais. Puisqu'il y a un dicton, on dit « le grand ouvrier travaille sans aiguille ». C'est-à-dire que normalement, un patient n'a pas besoin d'aiguille, n'a pas besoin de pharmacopée, n'a pas besoin de twina. Normalement, avec, en réglant sa diététique et en réglant son hygiène de vie, il doit être maintenu en bonne santé. Ça doit suffire. Donc le grand ouvrier, c'est-à-dire le bon thérapeute, c'est celui qui arrive à maintenir son patient sans avoir besoin d'utiliser les aiguilles, le feu, etc. Alors, bien sûr, la nutrition, elle aussi, va suivre les mêmes règles, là encore. Et ça, le petit chinois, pour lui, c'est une évidence. C'est des choses qu'on, nous, on est obligés d'apprendre, mais pour eux, c'est une évidence familiale, c'est traditionnel. Au niveau du yin-yang, au niveau des cinq éléments, donc on va retrouver ce qu'on appelle le yang-chen. Le yang-chen, c'est la nutrition dans son côté noble, la vision un petit peu taoïste. Voilà, on voit la vision taoïste de nourrir la vie, de faire croître les énergies. Hein. Donc on va très très loin, hein. On voit l'aliment même comme un actant, c'est-à-dire que l'aliment va vous donner ce qui est bon pour vous, et si vous n'êtes pas suffisamment développé au niveau de votre sagesse, il va retenir certaines énergies pour ne pas vous faire de mal quelque part. Hein. Merci. Donc vous voyez, ça va très loin. Bien sûr, c'est très peu utilisé aujourd'hui, et maintenant on parle de yin avec un G, hein. Yang qui est la nutrition telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire la diététique. Classique. Donc là-dessus, on voit les wei, les saveurs. Donc on va classer les aliments en fonction de leurs saveurs. Ces saveurs vont entraîner un mouvement d'énergie, là aussi. Et chose très intéressante, c'est que, par exemple, la saveur acide, qui correspond au printemps, vous rappelez, le printemps, c'était une saveur, c'était un mouvement de propulsion, de croissance. Et si vous prenez de l'acide, vous allez boire un petit verre de vinaigre, votre réaction, ça va être... Vous voyez, c'est un mouvement de retenue, au contraire. Si vous prenez le piquant, hein, c'est les deux plus parlantes, et qui est la saveur qui correspond à l'automne. Hein, on a vu qu'à l'automne, on avait ce retour vers le centre, et la saveur piquante, au contraire, c'est... Oh, vous voyez, c'est le mouvement inverse. Donc on a cette opposition entre le mouvement généré par les énergies de la saison et le mouvement généré par les aliments de la saison. Comme si, justement, cette énergie de la saison, si elle ne trouvait pas une opposition, eh ben, elle partirait à l'infini. Là, il y a l'aliment qui vient lui dire stop. Qui vient lui dire stop, c'est un petit peu comme on dit non à un adolescent ou à un enfant. C'est une manière de le faire grandir aussi. Déjà, on le limite, on le protège, mais aussi on le fait grandir. Hein, si je veux faire du muscle, que je fais, je mets de la fonte dans ma main, j'ai une opposition, et là, je vais faire grossir mon muscle. Donc, c'est la même chose. Hein. Là aussi, il y a ce mouvement de l'alimentation, elle vient là pour contenir le mouvement d'énergie de la saison. Donc, ça aussi, ça peut se réguler en fonction des saveurs et des déséquilibres. On va voir la notion de chi qui va être au niveau de l'aliment avec la nature de l'aliment. Donc il y a des aliments qui sont chauds, d'autres tièdes, d'autres froids, d'autres frais, etc. Toutes des classifications, hein, je vous passe les listes. Tout ça peut être modifiable, bien sûr, par le mode de cuisson, le mode de conservation. La forme de l'aliment va aussi entrer en compte, sa couleur, sa consistance, son hydratation, c'est dur, c'est mou, ces notions de dur et de mou aussi en médecine chinoise sont importantes. Le principe vital, qui va être aussi donné par l'aliment en fonction de la saison, de sa fraîcheur. Les Chinois sont très à cheval sur la fraîcheur des aliments. Si vous allez dans les marchés chinois, vous verrez que c'est toujours plein de monde, les gens y vont quasiment tous les jours, les animaux sont vendus vivants, hein, les poissons sont dans des viviers, etc. Donc la fraîcheur d'aliments, c'est très important. Bien sûr, son mode de culture, le lieu de culture, hein, si vous êtes dans une région froide du nord, elle va produire des énergies en rapport avec le froid et le nord. Dans le sud, c'est l'inverse. C'est pour ça que, je sais pas, manger une salade de tomates mozzarella épicée, etc., en plein hiver, on va avoir des énergies pour se défendre contre les énergies de la chaleur. Et puis on sort à l'extérieur, il fait froid, et on va tomber malade. Donc là encore, l'aliment va faire partie de la régulation, disons, de l'individu. Voilà, ici, globalement, hein, les grandes saveurs, on va dire, hein, en fonction des éléments, bois, feu, terre, métal, eau, les grandes catégories d'aliments, hein, et puis qui correspondent à chaque saison, et puis des aliments qui correspondent au bois, par exemple, vous voyez ici, au printemps, bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas de tomates ou de haricots verts au printemps, hein, mais ce sont des aliments qui font partie de la catégorie des aliments bois, d'accord? Donc on va pouvoir, il y a deux éléments très différents, même trois dans l'alimentation au niveau chinois. Déjà, il y a deux grands principes. C'est que le premier principe, c'est l'alimentation de tous les jours. Elle va suivre des lois. Des lois des saisonnières. On mange les choses de la saison et du terroir. Et puis, il y a l'alimentation de la fête. Alors, la fête, il n'y a qu'une seule loi. Pour le repas de fête, il n'y a qu'une seule loi. C'est que le repas soit pris dans la joie. C'est tout. Après ça, vous pouvez faire tous les excès. Mais il est vrai qu'on faisait peut-être la fête moins souvent avant qu'on la fait chez nous aujourd'hui. Et puis après, ça c'est l'alimentation de l'individu sain, qui est en bonne santé comme vous et moi. Et puis après, l'alimentation de l'individu qui lui est en pathologie, est en déséquilibre énergétique, là on va pouvoir utiliser les aliments à contre-saison, justement pour remonter le bois, le feu, le terre, etc., pour remonter les énergies d'un foie, les énergies d'un rein, etc. Donc on peut les utiliser à ce moment-là à contre-saison. Autre élément qui fait partie, donc je vous le disais, du fait de travailler, que le grand ouvrier travaille sans aiguille, c'est bien sûr l'hygiène de vie, c'est-à-dire, entre autres, notamment, le Qigong et le Tai Chi Chuan, qui font partie intégrante de la vie des Chinois. Si vous allez un jour en Chine, levez-vous tôt, à 6 heures du matin, allez voir un jardin public et vous verrez des centaines de personnes en train de faire du Tai Chi ou autre chose. Maintenant, on fait des danses de salon, on danse le tango, la valse, etc. Et puis, à 7h30, 8h, tout le monde part au travail. C'est très, très intéressant. Donc, c'est quelque chose de très, très présent dans tout le monde asiatique. En annexe, il faut parler qui est un petit peu en dehors de la médecine, mais qui peut des fois, parfois, interroger, c'est la notion de feng shui, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la géobiologie, c'est-à-dire que vous savez bien que il y a des endroits propices où mettre sa maison. Hein. Vous savez bien que les plus beaux endroits, en général, sont occupés par des chapelles ou des églises. Hein. Souvent, c'est là qu'on a mis, c'est pas pour rien, hein. C'est là où on sentait le mieux. Donc là aussi, il y a des lois. En Chine, alors là, je parle pas de quand on parle de la Chine capitaliste, je dirais aujourd'hui, si vous allez à Hong Kong par exemple, vous verrez que le bureau du maître de Feng Shui, c'est aussi grand et aussi luxueux que celui de l'architecte. Hein, c'est un monsieur qui est capable de faire déplacer des escaliers, de déplacer des ascenseurs, donc qui coûte un fric fou. Et qui, parce que c'est très important, hein, si vous allez à la bourse de Hong Kong par exemple, c'est un immense carré, la Terre. Parce qu'on travaille sur la matière. Et au milieu, il y a une petite. Et ce carré où il y a tous des ordinateurs, au milieu, il y a une immense estrade rouge, qui est carrée elle aussi, sur laquelle il y a une pyramide, qui est orientée bien sûr au niveau nord-sud. Et au-dessus de cette pyramide, si vous relevez la tête, le plafond est ouvert, et c'est ouvert vers le ciel pour que le dragon, justement, puisse descendre et faire la communication entre le ciel et la terre, etc. Donc des choses qui sont prises très très au sérieux. Une maison, idéalement, elle a une grande montagne derrière, une à droite, une à gauche, et puis devant elle, il y a une rivière qui va serpenter, surtout pas tout droite, hein, elle serpente parce qu'elle distribue ses énergies, etc. Hein, bon, ça c'est le lore du Feng Shui. Le Feng Shui, d'ailleurs, cette notion qui était au niveau de l'empereur, c'est la notion de Mingtang. On dit qu'il n'y a pas de capitale sans un Mingtang en Chine. C'est ce qu'on appelle la maison du calendrier. Et traditionnellement, l'empereur, je vous le rappelle, donc c'est le centre du monde, c'est le soleil du monde, et donc lui aussi, il doit voyager sur son territoire. Alors il y a un empereur qui a fait ça physiquement, c'était le grand hydrographe dont je ne me souviens plus le nom, peu importe, qui lui est allé visiter son pays physiquement, mais l'empereur symboliquement, enfin ça va au-delà du symbole pour le chinois, parce que c'était réellement le centre du monde. Donc il allait dans le Mingtang. Le Mingtang, c'est un temple où la base est carrée et le haut est circulaire, donc la terre et le ciel, et qui a soit 9, soit 5 salles, et où donc il y a des manières de cheminer, hein, où l'empereur va passer du nord au sud, donc il va générer, si vous voulez, les énergies du printemps, de l'automne, de l'hiver, donc générer par son cheminement physique le cours des saisons, le cours du temps. Hein, et il revient toujours au centre, bien sûr, hein, parce que c'est sa place. Sa place est au centre pour être le générateur. Nous avons dit qu'en Chine, l'empereur avait tous les droits sauf un. Il avait on disait qu'on pouvait couper la tête à un empereur s'il le faisait, c'est-à-dire de mettre les pieds en l'air, la tête en bas. Ce qu'il inversait l'ordre du ciel et de la terre, c'était une catastrophe. Donc, oui, j'ai marqué la tortue parce que la tortue est le symbole justement du Mingtang, puisqu'elle a ses quatre pattes carrées et avec une carapace ronde qui représente le ciel. C'est pour ça que ce symbole est si utilisé, notamment par les Chinois. Voilà, donc cette médecine, vous voyez, qui est diverse et variée, hein, avec de nombreux outils. J'ai pas parlé de la chirurgie, parce qu'elle était utilisée. Maintenant, c'est tellement désuet quand on lit les textes qu'il faut même plus en parler. Mais je veux dire, elle répond à de très nombreuses indications. Alors, dans l'aigu, parce qu'on parle toujours du chronique, mais dans l'aigu, il y a énormément d'indications, de choses qui sont réglées très rapidement, au niveau de tout ce qui peut être douleur, traumatisme, etc. Les zonas, les cystites, des diarrhées, des crises d'asthme, enfin, etc. J'en passe et des meilleurs, parce que je vois le temps qui tourne. Et puis, les atteintes chroniques, bien sûr, qui sont un petit peu le lot de ce qu'on a, parce que c'est vrai que la plupart des patients qu'on voit, c'est en général des gens qui ont fait le tour de beaucoup de choses et qui viennent nous voir un petit peu presque en désespoir de cause. Donc ils arrivent souvent avec des gros dossiers, avec des gros diagnostics, etc. Et puis à nous de démêler le système. Bien sûr, donc, on est dans un système où on va travailler sur l'énergie. On va travailler entre l'énergie et la matière, puisqu'on travaille sur des circulations d'énergie. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est vrai qu'on est toujours des fois un peu gêné quand on commence à dire l'énergie, mais on ne voit pas, c'est impalpable, est-ce que ça existe ou pas? Moi, je dis toujours aux étudiants, décomplexez-vous. Si vous regardez une pile électrique ou une prise électrique, il y a de l'énergie derrière, mais on ne la voit pas. On n'en fait que constater les effets. C'est-à-dire que pour savoir qu'il y a de l'énergie dans une pile, je mets une lampe ou un testeur, et là j'ai l'aiguille qui bouge ou la lampe qui s'allume, et je sais qu'il y a de l'énergie. Donc l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc automatiquement, vous ne soyez pas gêné de travailler sur quelque chose que vous ne voyez pas. L'essentiel, c'est d'en constater les effets. Pour nous, les effets, c'est la modification de la symptomatologie, tout simplement. Donc automatiquement, dès qu'on a des pathologies très lourdes, nous avons un rôle uniquement pour accompagner des effets désagréables, des effets de sécheresse par exemple, ou même au niveau de l'émotionnel tout simplement, hein, pour accompagner le patient. Bien sûr, c'est pas notre rôle d'aller traiter un cancer ou une leucémie. On a vu tout à l'heure le début de ce texte, et on voit qu'à la fin, il en est de même de la terre au centre et des cinq éléments, puisqu'on en a parlé, bois, feu, terre, métal, eau. Donc vous voyez que pour vous aussi, le bois, il veut dire peut-être un petit peu autre chose aujourd'hui que le bois de la table ou celui de l'arbre. Et puis ceux-là sont entourés, là aussi, des six qualités du ciel, qui sont le cercle extérieur de la manifestation. Et donc, après, on arrive à la fin de cette légende de la garde, où on parle du thérapeute lui-même. Donc au centre, le maître est en son jardin, sanctuaire de la connaissance. Constant, courageux et aimant, seul un disciple demeure, c'est l'étudiant. Porteur du coffret aux mille trésors de jade, disciple, il recevra tourné vers l'est. Maître et thaumaturge, donc quand lui-même sera devenu enseignant, il gouvernera et guérira tourné vers le sud. Maître, il se tiendra au centre. Maître, il enseignera tourné vers l'ouest. Disciple, il rendra compte tourné vers le nord. Telle est la voie du Tao. Et ça, il y a un mot intéressant. Pour terminer, je vais vous raconter un petit dicton chinois. C'est la notion du jardin. Vous avez vu dans le film Le Dernier Empereur, ce dernier empereur, il a fini jardinier. Et en Chine, on dit, si tu veux être heureux un jour, enivre-toi. Si tu veux être heureux une semaine, tue le cochon. Si tu veux être heureux un mois, pars en voyage. Si tu veux être heureux un an, marie-toi. C'est un peu pessimiste. Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier. Voilà, et bien alors je vous souhaite à tous d'être de bons jardiniers et je vous remercie pour votre écoute.